Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Thomas Asportas.
Bientôt 18h, bonsoir, soyez les bienvenus dans Good Evening Business. On est en direct jusqu'à 20h dans l'actualité ce soir. On a ce tacle de la Banque de France à Emmanuel Macron. Il faut arrêter de croire que la croissance va régler à elle seule, par magie, tous nos problèmes de finances publiques. C'est le message clé du gouverneur de la Banque de France au président de la République. On va évidemment décortiquer cette lettre dans les moindres détails ce soir dans Good Evening. Sinon, le monde se réarme à vitesse grand V, c'est pas un scoop, vous me direz, avec la guerre en Ukraine et celle au Proche-Orient, mais les chiffres publiés ce matin par le CIPRI sont quand même impressionnants, avec, vous allez le voir, des hausses d'investissement jamais vues depuis 15 ans. Et puis au même moment, la transition énergétique, elle, marque le pas. On en parle à l'occasion de l'ouverture du congrès annuel de l'énergie. C'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'à jeudi aux Pays-Bas. Et on en parle notamment ce soir dans la grande interview d'Edwige Chevrillon qui reçoit Ondine Suave, la cofondatrice de la start-up dans l'énergie solaire MyLight 150. Ce sera à partir de 18h10. Voilà le programme de Good Evening. On est en direct jusqu'à 20h.
Good Evening Business, le journal.
Et on commence donc, je vous le disais, avec la lettre annuelle du gouverneur de la Banque de France au président de la République. Bonsoir Alexandra Pagé.
Bonsoir.
Les temps ont changé visiblement Alexandra, puisque les lettres de 2022 et 2023 étaient consacrées à la gestion de l'inflation, alors que celle de cette année appelle à rétablir d'urgence les comptes publics, Alexandra.
Exactement Thomas. D'abord, un constat en forme et qui sonne comme une sonnette d'alarme. Croire que la croissance seule réussira à lutter contre les déficits est un vœu pieux, une illusion. La France fait désormais partie du club peu prisé des mauvais élèves de l'Union européenne avec un déficit creusé à 5,5% du PIB l'an dernier. Alors François Villeroy de Gallo le martèle, pour parvenir à maîtriser la dette publique, il faut commencer par s'attaquer aux dépenses avec un objectif raisonnable, stabiliser en volume les dépenses publiques. Alors la question c'est comment? Alors que le gouvernement refuse de décider de nouvelles baisses d'impôts générales, le gouverneur de la Banque de France estime, lui, qu'il ne faut pas avoir de tabou en termes de fiscalité. D'une part, la France n'a pas les moyens de conduire de nouvelles baisses d'impôts non financées comme c'est prévu, c'est-à-dire la CVAE pour les entreprises et les 2 milliards d'euros prévus pour les classes moyennes. D'autre part, on peut envisager d'élargir l'assiette de certains impôts sur les ménages et les entreprises et de revoir certaines niches, Thomas. En clair, envisager certaines hausses d'impôts ciblées.
Et ben voilà, le message est passé auprès du président de la République. Merci beaucoup Alexandra. Alors, des hausses d'impôts ciblées, on verra. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des économies, et notamment pour financer l'effort de guerre. Et on apprend aujourd'hui que les dépenses militaires ont battu tous les records l'année dernière, à plus de 2 400 milliards de dollars. La hausse des dépenses est la plus élevée depuis 2009. Jean-Baptiste Huette.
Plus de 2 400 milliards de dollars de dépenses militaires l'an dernier. En progression de 6,8%, il s'agit là de la plus forte augmentation d'une année sur l'autre en 15 ans. Sans surprise, cette augmentation est directement liée au contexte de guerre et aux fortes tensions géopolitiques. Les États-Unis, la Chine et la Russie sont en tête du classement. Ce qui frappe, c'est l'écart entre le premier et le deuxième. Washington a mis plus de 916 milliards de dollars sur la table et Pékin environ 280 milliards. La France, de son côté, se classe 9e avec 61 milliards de dollars de dépenses militaires. Amérique, Europe, Asie, Océanie, toutes les zones sont en augmentation. Le Moyen-Orient également. Les dépenses militaires atteignent là-bas 200 milliards de dollars en hausse de 9%. Une forte augmentation des dépenses, hein, explique le CIPRI, qui reflète l'évolution rapide du contexte régional. On est passé d'un réchauffement des relations diplomatiques entre Israël et plusieurs pays arabes ces dernières années au déclenchement d'une guerre d'ampleur à Gaza. Et aux craintes maintenant d'un conflit à l'échelle régionale.
Jean-Baptiste Huette, 18h03, direction l'Allemagne, à présent avec l'ouverture aujourd'hui de la foire de Hanovre. Vous savez, le grand rendez-vous incontournable en Allemagne pour son industrie. Et le pays place beaucoup d'espoir dans cette édition 2024, au moment où le pays est en berne, sa croissance en tout cas. Sur place, pour BFM Business, notre correspondante en Allemagne, Salomé Hénon-Cohen.
La foire d'Hanovre, qui existe depuis 1947, c'est l'industrie du numérique, des nouvelles technologies, de la mécanique et de l'énergie, toutes réunies sous le même toit, et ce, pendant 5 jours. Au programme de cette édition 2024, numérisation, automatisation des processus de production ou encore intelligence artificielle et surtout développement de l'hydrogène. La foire a d'ailleurs choisi la Norvège comme pays partenaire, leader dans le domaine. Oslo pourrait fournir de grandes quantités d'hydrogène vert dans les prochaines années à l'industrie sidérurgique allemande qui en aura grandement besoin. Sont attendues aussi les entreprises allemandes comme Siemens, Bosch ou encore Volkswagen. Mais ce sont probablement les mots du chancelier Scholz qui devraient marquer cette édition 2024, alors que l'économie allemande traverse une phase assez difficile. Dans son dernier rapport, la Bundesbank ne voit d'ailleurs pas de signe significatif de reprise de l'économie, malgré un premier trimestre encourageant. Mais ici, on espère tout de même que cela sonnera la fin du ralentissement après plus d'un an de stagnation.
Salomé Hénon-Cohen. Et puis pour finir, c'est une nouvelle semaine décisive qui s'ouvre pour Atos, puisque l'entreprise présente ce vendredi les offres reçues pour son sauvetage. OnePoint dévoilera la sienne dès mercredi. Et en parallèle de ça, l'État étudie la possibilité d'entrer au capital de BDS. BDS est la division d'Atos qui loge les activités sensibles de défense nationale, qui, vous le savez, préoccupe en plus haut lieu au sommet de l'État. Mathieu Pechberti.
C'est une petite société d'Atos qui concentre l'attention du gouvernement. MCS, pour Mission Critical System, est au cœur de la défense nationale. Elle s'occupe du combat aérien des Rafales, des écoutes de la DGSE ou encore de la simulation des missiles de l'armée. Le ministère de l'Économie a déjà négocié une action spécifique et des droits de gouvernance pour protéger MCS. Mais selon nos informations, il réfléchit à aller plus loin et étudie une prise de participation minoritaire au capital de BDS, la division qui contient MCS, ainsi que les supercalculateurs et la cybersécurité d'Atos. Le groupe n'y est pas favorable et brandit déjà la facture. Il en coûterait 180 millions d'euros à l'État pour prendre seulement 10% de cette branche, valorisée 1,8 milliard d'euros lorsqu'Airbus a failli la racheter au mois de février. L'État a déjà essayé d'intervenir par l'intermédiaire de Thales, dont il détient 26%. Selon nos informations, le groupe de défense a déjà approché Atos en début d'année pour lui racheter sa petite société MCS, mais il a été éconduit.
Mathieu Pechberti, 18h06, on va sur les marchés. Les marchés en direct d'Euronext avec Aude Kersulec. Bonsoir Aude, quel est le verdict à la clôture de cette première séance de la semaine ?
Et on repart du bon pied, une hausse pour commencer la semaine à Paris, c'est plus 0,2%. Alors cette hausse, elle est quand même contrastée sur les marchés européens parce qu'on a Londres qui grimpe de plus de 1,6%, tout proche d'ailleurs de ses records. Il faudra suivre ça les jours suivants. Wall Street est dans le vert après une semaine dernière quand même catastrophique. On avait perdu plus de 5% sur le Nasdaq. Alors attention tout de même parce qu'on continue d'avoir de la tension sur les marchés obligataires. Tenez, on a la dette française à 10 ans aujourd'hui. Qui a passé la barre des 3%. On reste également très élevé sur le 2 ans américain à quelques points de base des 5%. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a manqué un peu de moteur, plus 0,2%, ça reste assez faible. Edenred s'est repris sur le marché parisien après des informations vendredi sur l'enquête judiciaire qui a lieu en Italie et sur la mise en examen de 4 anciens dirigeants. Aujourd'hui l'entreprise a tenu à rassurer. Worldline aussi surclassé le SBF en prenant plus de 8% après un conseil d'administration renouvelé et l'entrée de 3 nouveaux membres. Voilà, en tout cas, sur les autres marchés, le pétrole s'est assagi, $87. L'or a considérablement baissé. Il est à $2349. Voilà, les tensions géopolitiques sont mises de côté cette semaine. On va vraiment regarder du côté des publications de résultats. Aux États-Unis, ce sera la tech et chez nous aussi, les publications de chiffre d'affaires. Ça commencera demain matin avec Renault. Voilà pour le CAC 40 qui monte de 0,2% à 8040 points ce soir, Thomas.
Merci beaucoup, Kersulec. Un coup d'œil au marché américain. À Wall Street, le Dow Jones gagne 0,35% à 38 120 points. Le Nasdaq, quant à lui, eh bien, gagne aussi 0,40% à 15 342 points. Allez, 18h09, on marque une pause et dans un instant, la grande interview. Edwige Chevrillon reçoit Ondine Suave, cofondatrice de la start-up dans l'énergie solaire MyLight 150 à l'occasion du congrès annuel de l'énergie. A tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. On va parler d'électricité, vous savez, c'est le 26e congrès mondial de l'énergie et on va parler d'autoconsommation, un démarrage absolument fulgurant en France et c'est peut-être la solution à l'explosion de notre facture d'électricité. Bonsoir, Ondine Suavet.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice et co-CEO de MyLat 150. En tout cas, c'est comme ça. C'est une ETI que vous avez créée avec votre frère.
Oui.
À peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais en même temps, ça galope, vous multipliez par 3, par 5 votre chiffre d'affaires. Vous avez du coup déjà 250 personnes. Et vous êtes votre principe, votre concept de cette entreprise que vous avez créée il y a une dizaine d'années. C'est donc l'autoconsommation. C'est devenir leader dans l'autoconsommation solaire. Vous allez tout nous expliquer. D'abord, deux, trois petites questions. Ondine Suavet, merci d'être là parce que vous venez de Lyon spécialement pour nous. Donc, c'est la porte à côté et en même temps, c'est pas évident. Mais il faut dire qu'il y avait une actualité très forte. D'abord, vous avez créé votre entreprise avec votre frère. C'est rare parce que souvent, c'est le mari, c'est peut-être l'amant ou la maîtresse, je ne sais pas. Mais enfin, en tous les cas, c'est deux personnes. C'est la première fois, je crois, que je vois un frère et une sœur qui créent leur entreprise et puis en plus, ça marche.
Alors, il y a quelques très beaux exemples en France. Vous prenez l'entreprise LDLC, un beau fleuron, ce sont deux frères.
Mais un frère et une sœur.
Alors, l'avantage, c'est qu'on ne peut pas divorcer. Donc, quand il y a un enjeu, quand il y a un défi, il faut qu'on trouve la meilleure solution. Et ça, ça crée une gouvernance extrêmement dans l'échange, dans la co-construction, enfin, toutes ces valeurs qu'on essaye de promouvoir de plus en plus.
Valeurs familiales, mais que vous portez.
Exactement.
Parce que là, vous êtes coco, vous êtes co-CEO, co-fondateur. Voilà, donc.
Oui, alors il faut clarifier les rôles, il faut être très complémentaire, il faut énormément de dialogue. Et de toutes les façons, l'entreprise, ce n'est pas que nous. Vous avez cité 250 personnes, ce sont toutes ces personnes-là qui l'ont fait. Ouais. Et en fait, en étant déjà deux à la tête, ça encourage encore plus de démultiplier les talents.
Encore une autre question un peu personnelle. Vous avez fait l'INSEAD, vous avez fait la chimie tech, vous êtes une ingénieure spécialiste donc dans la chimie. Pourquoi il y a si peu de femmes? Pourquoi ça rebute autant les femmes de faire d'être ingénieure?
Alors ça, c'est une bonne question. C'est vrai que les pourcentages stagnent. Je n'ai pas la réponse. Naturellement, mon parcours montre qu'en tant que femme, on peut se distinguer. On a un regard différent. On peut apporter énormément de choses dans ces domaines très techniques. Et il faut que l'on apprenne à s'en intéresser. Il y a des très beaux domaines qui se sont énormément féminisés, comme la médecine ces dernières années. Moi, je suis plutôt porteuse d'espoir que ces métiers très technologiques, très techniques, vont aussi se féminiser.
On dit une chose, je le disais, 26e congrès mondial de l'énergie, dans un contexte un peu particulier, parce qu'on va parler évidemment d'énergie, de transition énergétique, transition écologique, et on voit bien que ça coince, on le voit sur les chiffres sur la voiture électrique, mais ça coince parce que ça a été trop vite, trop techno, ça coûte trop cher. Est-ce que vous le ressentez? Comment vous expliquez? Et surtout, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elle se remette en marche?
Alors déjà, je pense qu'il faut comprendre un peu les ordres de grandeur. On doit, d'ici 2050, multiplier par 30% notre besoin en électricité. C'est-à-dire que si je donne des ordres de grandeur, aujourd'hui on a 600 TWh d'électricité, on doit passer à 900. C'est absolument gigantesque comme défi. Et on a eu plutôt ces dernières années un discours extrêmement anxiogène sur l'électricité, comme vous le dites. On a cru qu'on allait vivre des blackouts l'année dernière et on a peu eu...
Oui, puis ça nous culpabilise en plus.
Exactement.
Oui.
On a peu eu un message positif de cette transformation. Or, il faut bien comprendre que cette électrification, bien sûr, là, on est dans les rouages, alors ça ralentit un petit peu la voiture électrique, mais dans l'ensemble, il y a quand même une formidable dynamique. Et il faut bien comprendre qu'on est en train de résoudre un problème fondamental qui est le problème de notre empreinte carbone, qui est majoritairement lié à notre consommation d'énergie fossile.
C'est clair.
Il faut se le rappeler. Et il faut se le rappeler qu'en France, on n'est pas du tout dans une énergie décarbonée, puisqu'on a encore 60% de notre énergie qui sont de l'essence, de la chaudière à gaz, et donc très carbonée. Donc quand on parle électricité, c'est déjà qu'on a fait un formidable pas en avant, qu'on a transformé tous ces usages très pourvoyeurs de carbone en des usages décarbonés.
Oui. En plus, dans 10 ans, il faudra doubler notre production d'électricité en France, rien qu'en France, parce que on le voit bien maintenant, tous les usages sont électriques,
exactement,
notamment la voiture, mais pas que, les bornes de recharge. C'est sûr que c'est là où on est dans une situation un peu paradoxal.
Alors, on est un peu paradoxaux, mais en même temps, on a éteint 5 réacteurs nucléaires ce week-end parce qu'il n'y avait pas assez de demandes. Vous voyez, donc il y a vraiment des signes contradictoires parce qu'il y a deux courses qui sont en train de se poursuivre. Le déploiement des énergies renouvelables de manière massive, extrêmement forte dans le monde entier et en Europe. Et en parallèle, l'électrification des usages. Et quelquefois, c'est plus de production qui est déployée, moins de consommation. C'est ce dont vous parlez. La voiture électrique tous. Et en parallèle, le solaire, l'éolien s'envolent. Et là, on voit des prix qui arrivent à des prix négatifs. Un prix négatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire retrouver de la compétitivité à l'échelle européenne et à l'échelle française, parce que le coût de l'énergie est un des éléments clés de la compétitivité française.
Alors, du reste, les renouvelables, ça représente 30% maintenant l'électricité française.
Alors, 30% de l'électricité l'année dernière, oui. Oui, 30%. Donc, c'est beaucoup plus important que ce qu'on a en tête.
Oui. Tout à fait. Alors vous, donc MyLight 150, pourquoi MyLight 150?
Alors 150,
parce
c'est
qu'on ne
le...
sait pas si c'est 150, comment on dit.
En tout cas, c'est 150 millions de kilomètres, la distance entre la Terre et le Soleil, puisque nous faisons le lien entre cette ressource inépuisable qu'est le solaire et la consommation électrique représentée par la lumière, évidemment, MyLight, de la maison. Voilà l'enjeu de notre entreprise.
Oui, alors l'autoconsommation, expliquez-moi, parce que moi je dois reconnaître, enfin, je visualise assez bien, mais je ne mesurais pas à quel point c'était un marché qui est en pleine explosion.
Ah oui, alors on est en pleine explosion. Alors en France, un peu plus timide que nos voisins.
Oui, qu'en Allemagne, par exemple.
Qu'en Allemagne.
500 000 sites en France, autoconsommateurs, on dit comme ça.
Exactement.
En Allemagne, je crois que c'est
4 millions.
Ah oui.
Et aux Pays-Bas, c'est encore plus fulgurant. Pourtant, pas réputé pour son soleil, on est sur une maison sur 4 équipée. En France, on est sur quelques pourcents de maisons équipées. Donc on est sur des taux de déploiement très très importants. Ce qui veut dire que la France a un énorme potentiel.
Alors, quand on dit autoconsommation, expliquez-nous exactement qu'est-ce que c'est, jusqu'où, avec quoi, comment.
Alors, le principe est assez simple. Vous allez installer des panneaux solaires sur votre toit. Et l'électricité de ces panneaux photovoltaïques, donc qui produisent donc de l'électricité et pas de la chaleur, c'est déjà le premier point, va servir à faire les usages de votre maison, tous vos gros consommateurs. Le chauffe-eau, tout votre consommation d'électricité. Mmh. Le défi, c'est évidemment que vous produisez quand il y a du soleil et vous consommez plutôt quand vous êtes chez vous, c'est-à-dire en soirée, quand il y a moins de soleil. Donc le défi, c'est d'équilibrer et d'aligner l'offre et la demande dans la maison à tout instant, puisqu'on stocke encore très très mal les électrons d'un point de vue physique. Mmh. Et ça, c'est ce que fait notre société. Donc nous, on va vous aider à vous installer. Nous ne sommes pas installateurs, mais nous travaillons avec un réseau d'installateurs, donc qui vous pose les panneaux, qui vous pose le système que l'on déploie, nos systèmes de gestion. Et après, on prend en charge toute votre facture d'électricité. Donc vous devenez client chez MyLight 150. Et là, on va s'arranger pour diviser votre facture de manière massive. C'est 2 2005 3 000 euros d'électricité par an que vous économisez avec des retours sur investissement de 5 à 7 ans. Donc c'est extrêmement rapide.
Mais comment vous arrivez à ces chiffres? Enfin, sans être trop technique, bien sûr. Mais
C'est assez simple. Déjà, on va identifier toutes les sources de consommation qu'on peut déplacer. Le plus évident, c'est le chauffe-eau. Les autres, c'est votre voiture électrique ou votre chauffage. Une pompe à chaleur, ça se gère. Ouais. Donc, on va commencer par gérer. Une fois qu'on a géré, donc là, déjà, vous atteignez des 50% de réduction d'électricité sur votre facture, voire plus. Une fois qu'on a commencé à gérer, il reste toujours des moments de la journée où vous allez plus produire et des moments de la journée où vous allez moins produire, ou en tout cas pas assez.
Et il suffit d'avoir un panneau solaire sur son toit, c'est ça que vous nous dites?
Non, un seul, évidemment, n'est pas suffisant. On commence à avoir des performances intéressantes quand on est à 10, une dizaine de panneaux solaires sur le toit.
Et de quelle taille les panneaux solaires?
Ils font 1 mètre par 1 mètre 50, ça c'est standardisé, ou même 1 mètre par 2 mètres à l'heure actuelle.
Donc, okay.
15 mètres carrés à 20 mètres carrés de panneaux, on commence à être sur une installation qui peut vraiment vous amener de la performance.
Et après, vous, derrière, vous donnez un petit kit, en fait, qui permet donc à la personne, enfin aux habitants, parce que c'est surtout sur des maisons individuelles ou alors c'est sur des sites industriels, des écoles de...
Aujourd'hui, en France, la majorité de l'autoconsommation reste sur des maisons, puisque le propriétaire est celui qui paye la facture. Ouais. Il commence à y avoir des déploiements sur des sites industriels. On voit beaucoup parler des d'ombrières solaires qui, là, peuvent être installées en autoconsommation. Ouais. Pas toujours, mais c'est un des modèles. Mais nous travaillons sur la maison, oui.
D'accord, ok. Et donc, en fait, si on installe tout ça avec votre kit, ça revient à combien c'est un investissement, parce que vous parlez de la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, c'est déjà un investissement. Alors, ça commence à chiffrer.
Oui, bien sûr. Alors, on est autour de, on va dire, 15 000 euros d'investissement. Ça peut monter si on augmente le nombre de panneaux solaires, c'est évident. Baisser si vous en mettez moins. Ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que ça se finance extrêmement bien. Donc, vous pouvez aller voir votre banquier, lui dire, j'installe des panneaux solaires. Il va vous faire un prêt sur 12 ans. À un taux en plus en général bonifié puisque vous êtes sur de l'énergie verte. Donc aujourd'hui, en fait, ce que ressent le consommateur qui s'équipe, ce n'est pas de hausse de ses charges puisque le coût du prêt est au moins égal au coût des économies. Donc on équilibre vraiment son investissement et c'est ça que qui devient très intéressant.
Et vous avez combien de clients? Parce qu'on disait, vous avez commencé tout petit, maintenant vous avez déjà 100 millions de chiffre d'affaires, vous avez multiplié par 3, vous espérez multiplier par 5, donc ça ferait 500 millions à quelle échéance?
Alors, 500 millions, ce serait plutôt à 5 ans. Oui, et on a aujourd'hui 30 000 clients de déployés, dont 10 000 à peu près, qui sont avec notre offre de batterie virtuelle qui, elle, gère 100% de votre facture, y compris les électrons qui vous manquent la nuit et les électrons que vous avez en trop le jour.
Alors maintenant, la question qui fâche, donc vous avez équipé en France sur la totalité du territoire, vous nous avez dit, mais il y a combien de maisons en autoconsommation, vous pensez?
On en a 500 000 aujourd'hui et on en a équipé 130 000 l'année dernière.
Ah oui, d'accord. Mais c'est vous 500 000?
Ah non, nous 500 000, non, nous 30 000.
Oui, vous, pardon, c'est 30 000. 30 000. Oui, c'est oui, ça. Oui, non, 500 000, c'était les chiffres. Et déjà, je me souviens, la patronne de l'Enedis, elle avait dit que c'était 400 000. Ouais. Donc ça grossit. Ça grossit tout le temps, visiblement. C'est un énorme marché, c'est pas pour rien. Vous avez la BPI et d'autres gros actionnaires, on y reviendra, à votre capital. Juste un petit souci, c'est que la filière photovoltaïque en Europe, elle n'existe pas, c'est vraiment le grand échec de l'Europe. Et vous en fabriquez, mais ils viennent de Chine.
Alors oui, et
donc
je
vous
viens
avez
placer...
aucun complexe à dire qu'ils sont fabriqués en Chine.
Alors, c'est même pas un sujet de complexe, je pense qu'il faut dire la vérité aux gens. Aujourd'hui, les 95% des panneaux solaires du monde sont faits en Chine. C'est un réel enjeu. Moi-même, de mon expérience historique, j'étais chez un fabricant de panneaux solaires. Quand j'ai démarré dans le milieu en 2007-2008, les premiers fabricants au monde étaient européens et entre autres allemands.
Oui.
Donc on a laissé...
Il y en avait un près de Nantes, là, qui vient de faire faillite.
Hein. Exactement. Oui, oui. Alors, l'enjeu, et typiquement, c'est un des sujets de la personne qui est, de l'entreprise qui était à Nantes. L'enjeu, c'est de faire revenir la technologie de la cellule. Mmh. Et il y a deux très grands projets qui sont en train de se déployer, qui sont le projet d'Holosolis et le projet de Carbone. Moi, je crois beaucoup à ces déploiements. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, on parle de 1,5 à 2 milliards d'euros d'investissement pour une usine. Donc, ça paraît colossal, mais c'est à mettre en perspective avec les plans de 66 milliards d'euros qu'on met dans nos plans nucléaires. Donc, c'est possible.
Et puis surtout, s'il y a des financements. Enfin,
exactement.
Et le fonds vert de l'Europe, enfin, il y a beaucoup de financements.
Exactement. Donc, je pense que ces projets peuvent vraiment trouver un avenir. Il faut aussi qu'on travaille, parce qu'il y a eu... le gouvernement chinois a fortement soutenu ces fabricants en créant aussi le plus grand marché au monde, le plus grand marché mondial d'installation, c'est la Chine. Et donc, il faut que nous aussi, en dynamisant notre marché local, on encourage les usines à se réimplanter. Les États-Unis ont fait ce pari et sont en train de le réussir. Il y a des usines qui se réimplantent aux États-Unis et il est temps que l'Europe...
Donc, nous, il y a deux projets, en tous les cas, c'est ce que m'avait dit Agnès Pannier-Runacher, en France. Et en Europe, en Allemagne, par exemple?
Il y en a quelques-uns en Allemagne, il y en a dans le nord de l'Europe.
Avec quelle échéance?
Alors, si on arrive à mettre ces 2 milliards sur la table, ça peut être fait en 18 mois. Hein.
Oui.
Donc ça peut être extrêmement rapide, il faut une vraie volonté.
Et vous, votre usine, elle est où en Chine?
Alors, elles sont à plusieurs endroits. Nous, notre
vous
objectif...
Vous en avez plusieurs?
Oui, parce qu'on cherche toujours les panneaux solaires les plus puissants et la plus grande qualité. Et je pense que ça, c'est aussi l'enjeu de la réindustrialisation française. On doit amener les meilleures technologies. On ne doit pas être derrière, on doit mener sur la technologie. On a des centres d'excellence comme le CEA, comme l'INES sur le territoire français. On peut vraiment reprendre la maîtrise de notre technologie photovoltaïque.
Donc vous dites en fait on a l'innovation quelque part, on est bon. Après quoi, c'est une question de coût du travail, c'est une question de bureaucratisation,
Non,
c'est une question de quoi
Pas vraiment, hein. Ce sont des usines qui sont très très automatisées. Je pense qu'on n'a pas réalisé à quel point c'était un enjeu stratégique.
Ah bah oui, parce qu'il y a eu des très subventionnés, puis après on a arrêté les subventions.
Oui,
ah, c'était
alors,
du grand n'importe quoi.
C'est important de regarder comment on subventionnait par rapport à des pays comme la Chine. On subventionnait l'installation. Donc on a créé une filière avec des champions européens d'installation. J'ai en tête des Neoen. Nos grands énergéticiens font partie des meilleurs au monde, comme des Engie, des Total, des EDF. Donc on a créer une filière d'excellence sur l'installation parce que les subventions visaient l'installation. Sur la fabrication, on n'a pas mis les aides d'État qu'ont pu mettre des pays comme la Chine ou la Corée.
Ouais. Et c'est ça où il faut absolument trouver. Et à ce moment-là, si jamais c'est le cas, dans 18 mois, si on met 2 milliards sur la table, vous seriez prêt à fermer vos usines en Chine et les faire fabriquer
Complètement, oui. Complètement. Il faut aussi comprendre l'enjeu du panneau solaire sur le montant que je vous ai indiqué. Le panneau solaire, c'est 15 à 20% du montant total. Donc le panneau solaire est devenu pas cher du tout. Et l'enjeu, en fait, quand vous installez un kit solaire, vous créez de l'emploi, de l'installation en local. Il y a toute une partie, une grosse partie de la valeur est en réalité faite en local en France.
Vous avez 250 personnes pour l'instant. Vous comptez là, puisqu'on était 500 millions de chiffre d'affaires dans 5 ans, combien d'un effectif de combien dans 5
Alors,
ans
Dans 5 ans, c'est toujours un peu difficile de se projeter, mais en tout cas, on a 80-100 personnes embauchées rien que cette année. Donc vous voyez, on reste sur une courbe. Donc c'est pour ça que je vous explique.
Et vous n'avez pas de problème là, pour embaucher des gens?
C'est toujours un enjeu. Il faut travailler. On est en train de revoir toutes nos techniques. Il faut communiquer. On a quand même un atout incroyable. C'est qu'aujourd'hui, il y a toute une génération qui veut avoir un métier avec du sens. Et mine de rien, on leur offre ça en permettant de participer activement à la transition énergétique.
Vous êtes membre de la French Tech, évidemment,
oui.
du Tech 50, non, Tech 30.
Alors, pas encore, on doit postuler.
Ah.
C'est dans quelques semaines.
Dans quelques semaines, d'accord. Ok, ben, heureusement, vous êtes là, comme ça, on va vous porter chance. Si je vous pose la question, c'est parce que dans la French Tech, c'est vraiment tout ce qui touche à la transition écologique et énergétique. C'est un des points forts de la French Tech, non?
Alors, ça a été pendant longtemps plutôt le parent faible. Et
oui.
L'année dernière, sur les levées
oui.
de fonds,
oui.
à l'inverse, ça a été les meilleures levées de fonds l'année
absolument,
dernière.
Absolument, c'est pour ça que je vous dis ça.
Il y a vraiment un virage.
Oui.
Et ça veut aussi dire, et pour être dans un certain nombre de réseaux d'entrepreneurs, on voit vraiment que les entrepreneurs aujourd'hui, peut-être qu'ils ont réussi à faire des très belles entreprises dans toutes les... Alors, on appelle ça disrupter, hein, dans toutes les entreprises qui disruptent. Mais aujourd'hui, ils veulent de nouveau, eux aussi, créer des entreprises avec du sens.
Merci beaucoup, Ondine Suavey. Donc, on a appris vraiment que l'autoconsommation, c'est vraiment quelque chose qui explose en France.
Exactement.
D'où l'explosion de votre entreprise. My Light 150. Et puis là, vous revenez nous voir. Et la prochaine fois, on viendra avec votre frère. Comme ça, on verra un frère et une sœur. Et on va créer et développer une été. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est Thomas Asportas pour toute l'info.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
18h34 sur BFM Business, nos experts sont en plateau, Edwige Chevrillon, Emmanuel de Chypre sur le gong comme toujours, bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à tous les deux.
L'économiste qui tirait plus vite que son ombre, Audrey Tcherkov, évidemment.
Et bonsoir Tamsas.
Bonsoir Audrey, très heureux de vous retrouver cette semaine. Messieurs, dames, on commence évidemment la semaine avec la lettre annuelle du gouverneur de la Banque de France au président de la République. Le gouverneur, avec ses mots à lui, met quand même un petit peu les pieds dans le plat sur la stratégie économique et budgétaire de la France. Il dit notamment, c'est la phrase que j'ai retenue, il faut sortir de l'illusion que la croissance va régler à elle seule nos problèmes de finances publiques. Ça, dans des...
ça on aurait pu
dans
dire.
La bouche, oui, mais dans la bouche d'un banquier central, c'est un tacle quand même adressé au président de la République, non?
Oui, sauf que ce tacle-là, François Villeroy de Gallo, Christian Noyer avant lui... Jean-Claude Trichet avant lui, vous retrouvez quasiment mot pour mot les mêmes mots dans la même lettre au fil des années. Donc on est malheureusement dans, toute la dramaturgie qu'on est en train de jouer autour des finances publiques. La lettre du gouverneur de la Banque de France, ça en fait partie. Voilà, un nouvel élément
du rituel
et sans aucune inflexion des trajectoires, avec des recommandations qui sont quand même extrêmement classique, ce serait même presque un compliment. C'est-à-dire, ce sont des recommandations éculées. On peut pas tabler que sur la croissance. Il faut faire que des baisses d'impôts qu'on peut financer.
Non, mais là, pour le coup, rétablir les comptes par la croissance, c'est vraiment le mot d'ordre du président. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est un peu intact.
Deux choses.
Edwige,
moi, c'est, d'abord, j'aurais bien voulu voir la. Je sais pas du reste s'il lui a pu lui remettre, mais d'habitude, il le remet quand même à Emmanuel Macron. J'aurais bien voulu avoir la tête du président en face pour voir s'il a compris pourquoi. Et puis, j'imagine qu'Emmanuel Macron lui a quand même dit attendez, si la croissance a marqué le pas à ce point-là, j'ai une petite idée de la raison. C'est que la Banque Centrale Européenne
a légèrement augmenté ses taux.
Très fortement ses taux d'intérêt. Donc, ils ont cassé quand même un peu la croissance. Alors, il y avait des raisons, bien sûr, l'explosion de l'inflation. Enfin, c'est quand même ça qui a cassé, et c'est ce que vous voulez, c'était arrêter la machine, arrêter la surchauffe. Donc, je pense que...
Oui, c'est le serpent qui laisse mordre la queue.
La croissance, c'est vous qui l'avez cassée, c'est pas moi.
Ceci dit, à partir du moment, et d'ailleurs, on en parle quasiment tous les soirs sur ce plateau, à partir du moment où la France a 10 points de plus globalement que la moyenne européenne en termes de dépenses publiques, avec des structures de dépenses différentes, mais globalement on dépense plus que tout le monde sur tous les sujets, avec une dépense qui n'est plus efficace, on est obligé de parler de solutions structurelles pour sortir de cette ornière. Or, il n'y a aucune solution de la part du gouvernement, en tout cas structurelle, qui émerge. Est-ce qu'on garde ou pas le statut de la fonction publique? Qu'est-ce qu'on fait avec ce système des retraites qui ne fonctionne plus? On se dirige vers un actif
Audrey,
pour un retraité.
Je veux dire, vous mettez la France à feu et à sang, donc c'est, ils sont, ah bah, feu ils et sont à sang, dans la politique.
Non, mais je parle de prendre de décisions courageuses, et c'est ce que Villeroy de Gallo essaye de dire.
Bah, c'est toujours à fait ce qu'a fait le gouverneur de la Banque de France. Ils ont toujours dit, avec leurs mots à eux, comme le soulignait Emmanuel, parce que justement, ils sont quand même très prudents, et puis surtout eux, ils ne sont pas dans la politique, encore une fois ils sont responsables de la politique monétaire de la France, mais ils ne font pas de politique. Alors parfois la ligne de crête elle est assez fine, mais
quand il dit que le président doit renoncer aux baisses d'impôts, là pour le coup il fait de la politique. Là aussi, c'est un peu inhabituel de faire ce genre de recommandation. Alors, la France n'a plus les moyens de baisser les impôts.
Oui, d'accord, les fameux 2 milliards pour les classes moyennes.
Alors, les 2 milliards de baisse d'impôts et puis la CVAE pour les entreprises. C'est les deux baisses d'impôts qui sont dans les tuyaux. Ouais. Le gouverneur dit, c'est simple, on n'a plus les moyens. Donc stop aux baisses d'impôts.
Oui, mais vous voyez, c'est là où le gouverneur, il est un peu finalement dans le même cercle vicieux que le gouvernement, que le président de la Cour des comptes, que le président de la République. C'est-à-dire que tous les arguments qui sont présentés sont absolument pas à la hauteur des enjeux. Alors ok, renonçons à 2 milliards de baisses d'impôts pour les ménages. Renonçons aussi à quelques petits milliards de
3 milliards
de baisse de la CVAE. Voilà, mais encore une fois, les recommandations de François Villeroy de Gallo ne sont absolument pas à la hauteur des enjeux. Et les réflexions restent toujours aussi pauvres sur tous les sujets. C'est-à-dire, sur le sujet de la dépense publique et de l'efficacité de la dépense publique, sur lequel, effectivement, on peut légitimement s'interroger depuis des décennies.
Concrètement,
ça n'a jamais jamais été suivi des faits. Moi, personnellement, j'ai fini par renoncer à espérer.
Oh non, Emmanuel, ne renoncez pas
à ce grand soir.
Espèce de grand soir de la réforme de l'État pour aller vers un service public.
Ah, mais c'était la grande promesse d'Emmanuel Macron, je vous rappelle.
Oui, mais pas plus que ses prédécesseurs, il ne l'a tenu. Et donc, il y a bien un moment, si vous voulez, si la problématique, c'est de réduire nos déficits et notre dette, et j'ai envie de dire plus que notre dette, notre charge de la dette, parce que fondamentalement, c'est quand même ça le problème. Ce qui pèse sur les comptes publics d'un pays, c'est pas tellement la dette, c'est la charge
de la dette. Premier poste de dépense d'ici peu.
Vous avez toujours les quatre mêmes leviers, c'est-à-dire soit vous espérez de la croissance, ce qui est effectivement
le mantra du président,
soit vous espérez de l'inflation, soit vous réduisez la dépense publique, soit vous augmentez les impôts. Donc, moi, je pense qu'il faudra jouer un peu de tout ça. Et il y a la question, en fait, qui est absolument éludée aujourd'hui et qui, pourtant, d'après moi, est une question cruciale. Parce que oui, il y a sans doute... alors, même si on est dans un pays qui prélève beaucoup, mais notamment à cause des cotisations sociales, il y a un vrai sujet sur la fiscalité en elle-même, sur les impôts eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un pays dans lequel on a beaucoup d'impôts qui sont douloureux, qui ne rapportent pas grand-chose.
Comment ça, qui ne rapporte pas grand-chose ?
Bah, prenez par exemple l'impôt sur le revenu en France. Tout le monde vous dit que c'est un massacre parce que c'est très douloureux pour ceux qui le payent et que fondamentalement, ça n'est pas une source de revenus majeure.
Non, mais c'est surtout le problème, c'est qu'il y a un Français sur deux qui ne le paye pas.
Oui,
c'est ça. C'est très injuste.
Voilà. Et quand on pense aussi à tout ce qu'il va falloir financer, c'est pour ça que je vous dis la baisse des dépenses, moi j'ai du mal à y croire. Enfin, si vous mettez bout à bout la défense, la santé,
certaines dépenses pour financer d'autres.
L'éducation.
Oui, parce que là, on est en train de renier et sur l'éducation et sur la transition climatique.
Sur la nouvelle fiscalité. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles sources de revenus qu'il va falloir taxer. Qu'est-ce qu'on fait sur l'intelligence artificielle, par exemple, si l'intelligence artificielle remplace de la main-d'œuvre humaine? Qu'est-ce qu'on fait sur la fiscalité
environnementale? Attention à la compétitivité. Parce que déjà qu'on n'est pas super bien placé sur les chiffres mondiaux.
Qu'est-ce qu'on fait sur la fiscalité environnementale? C'est quand même un sujet.
Oui, mais vous parlez de solutions européennes.
Oui.
Voilà, je pense que pour en revenir à la politique qui a été conduite, la politique fiscale qui a été conduite, je pense que l'erreur d'Emmanuel Macron, même si ça partait d'un bon sentiment, c'était la suppression de la taxe d'habitation.
Ah ouais.
Et puis le fait de baisser les impôts de production, parce que c'est quand même les impôts qui financent les collectivités locales. Et je pense que le gros problème est le dérapage des dépenses publiques. On le voit bien, c'était notamment l'augmentation du nombre de fonctionnaires, mais pas que. Grand dérapage, il vient des collectivités locales. Et l'absence de réforme, parce qu'on empile les mille feuilles, on a fait la grande réforme de l'État avec François Hollande, finalement, ça complique, c'est même une catastrophe, hein, l'intercommunalité, tout ça, le grand machin. Et que il a déresponsabilisé un peu les collectivités locales. Parce que maintenant, c'est facile pour elles de dire, attendez, vous comprenez, on nous coupe les vivres, alors donc on s'en sort pas, donc on est obligé d'augmenter la taxe foncière, etc. Il a coupé le lien, ce que dénonçaient du reste les opposants, cette suppression de la taxe.
Alors, il a coupé le lien, il a tout complexifié à l'heure où, justement, on n'arrête pas de parler de simplification. Et on se rend compte que finalement, simplifier, c'est très compliqué.
Ah bah simplifier, ça ne marche pas, oui, parce que...
Ça ne marche pas en France.
Alors ça, on verra mercredi, le projet de loi est présenté mercredi.
Exactement, on en parlera
mercredi. C'est l'heure de vérité pour Bruno.
Enfin, vous allez dire, décidément...
L'histoire se répète.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros...
Ah bah oui, nous qui sommes vieux, je peux vous dire que l'histoire se répète beaucoup.
Vous deux, vous êtes jeunes, etc.
Mais même nous, on a entendu parler de simplification et de l'être gouverneur.
Mais demandez à tous nos amis qui ont essayé d'y toucher un peu, à Guillaume Poitrinal...
Ah oui, ça, c'est sûr.
Et c'est qu'en fait, on est dans on a la meilleure machine à complexifier, à réglementer et à taxer du monde, et c'est extrêmement compliqué. Et vous voyez bien que quand vous voulez simplifier quelque chose, vous en arrivez à le complexifier encore davantage. C'est-à-dire que quand on parle,
regardez une spécificité française,
par exemple tout bête, qui est la rémunération au mérite des fonctionnaires.
Ouais.
Quand vous voyez le système qui va être mis en place pour savoir si un fonctionnaire mérite ou pas, d'être augmenté ou pas, alors que dans n'importe quelle boîte, vous avez un chef de service
atteint des objectifs ou pas,
à sa discrétion, en fonction des objectifs fixés, etc., fait que
fait votre fortune, Emmanuel, ça.
Voilà. Et donc, vous voyez bien qu'on n'en sort pas.
Bon. Oui, alors, juste quand même une question avant qu'on passe au sujet suivant. Les retraites, quand on voit que les pensions de retraite, ça représente une dépense absolument colossale, faut-il indexer à 100% ou pas un point de non-indexation? C'est 3 milliards
d'économies. Là, c'est l'engagement qui a été pris par le président.
Mais donc.
Juste le problème, c'est que l'RTT, ils vont pas voter pour lui aux élections européennes. Moi, je trouve que c'est juste ça que je trouve d'une injustice absolument.
Ah, bah, il y a des milliards qui votent et des milliards qui ne votent pas.
Il y a quand même un moment où Emmanuel Macron, c'est là où on se fourvoie sur toute la longueur. C'est-à-dire que comment trouver d'autres explications que les explications politiques pour expliquer les refus successifs de sauter les obstacles un petit peu difficiles en matière de bonne gestion des finances publiques.
Par exemple,
typiquement l'indexation des retraites sur l'inflation.
Par exemple,
l'assurance chômage.
Contre-exemple.
Parce que là on a une nouvelle réforme.
Ça flatte aussi un électorat.
Oui, c'est vrai.
Ça flatte aussi un électorat.
Ah oui, mais là, l'occurrence, ça marche pas parce que.
Bah si, ça marche aussi. Bah non. Mais il s'attaque pas aux vieux. Enfin, je veux dire.
Pas encore.
Voilà. Mais non, au contraire, il a fait augmenter les pensions.
Donc non, mais il a fait. Voilà. Mais non, mais justement, alors qu'en fait, en réalité, plus cher, oui. Il faudrait qu'il paye. Il faudrait que les retraités payent.
Mais davantage. Surtout, je veux dire,
nos retraités, ils vivent beaucoup.
Oui, mais ça, c'est. Ça ne paye pas son électorat.
Parce qu'ils votent pas pour lui. Ils vont pas voter pour Macron.
C'est là où ils se font voir. Non, mais Edwige, c'est là où je dis qu'ils se font voir. C'est-à-dire, en gros, il espère. Lui, il pense que. Effectivement, c'est le meilleur moyen de gagner des élections. Or, vous voyez bien que tout ce qu'il a dépensé pour les Français, on ne lui
c'est pas crédit
de rien. C'est-à-dire que
ouais, mais ça c'est le propre de la politique. La taxe
d'habitation. Tout, plus personne ne se rappelle qu'il a baissé.
Ça a coûté le maire 40 milliards, je crois, de mémoire.
Bruno Le Maire, on l'a dit. Oui, Bruno Le Maire, lui qui espérait finalement s'inscrire un peu dans l'histoire comme le ministre de l'économie qui a protégé les Français contre le Covid, etc. On l'accuse aujourd'hui d'être celui qui dit
qui a fait dériver
l'argent public. Et donc, on voit bien que tous les cadeaux qu'on peut faire aux Français électoralement.
C'est vrai. Ça oui, alors sauf que quand
et
même
et après les gilets jaunes etc.
Emmanuel, sur ce deuxième quinquennat, il y a zéro enjeu de réélection derrière. Donc c'est bien pour ça que ça
aurait les élections européennes.
Oui,
personnel,
d'accord, mais en tout cas personnel non mais c'est pour ça qu'on aurait pu attendre.
C'est pour ça qu'on a envie de dire mais vas-y.
Et ben voilà.
C'est pour ça qu'on a envie. Non mais c'est ça, c'est
le cri du cœur d'Emmanuel.
Non mais attendez, sauf s'il y a le Rassemblement National qui passe qui succède Marine Le Pen, succède à Emmanuel Macron.
Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Oui, on jette des pétales de rose tous les jours sur le chemin de Marine Le Pen vers l'Élysée, avec les questions d'insécurité, avec les questions d'islam, avec les questions de tous les services
publics.
On
peut pas dire qu'Emmanuel Macron,
d'éducation, etc.
Je sais qu'il a des torts, mais enfin, il n'est pas responsable non plus de tout.
Edwige, il est président de la République.
Je sais bien.
Il est jeune.
Il ne pas échapper.
Il n'avait théoriquement aucun.
Il a fait aucun, les gilets jaunes. Il a eu les réformes.
De toute façon, il ne peut pas être candidat. Après, il pourra faire un autre métier, etc. Et moi, je pensais, compte tenu psychologiquement de ce qu'on savait de ce jeune homme, qu'il aurait peut-être l'ambition et la fierté de rentrer dans l'histoire comme étant celui qui aura remis la France sur les rails. Or, il va rentrer dans l'histoire.
C'est plutôt le deuxième quinquennat.
C'est la première partie. Du premier quinquennat, il a fait beaucoup de choses.
Oui, après, et d'ailleurs, le déficit, on le rappelle quand même, était repassé sous le seuil fragile des 3%.
Après,
il lui reste encore 3 ans, contrairement.
Après, il y a le Covid, etc. Mais je veux dire, le deuxième quinquennat, il pouvait être le quinquennat où il disait, attendez, moi je n'ai aucun enjeu de réélection, je prends toutes les décisions qui sont bonnes pour le pays, quelle que soit l'impopularité que ça peut que
d'où
ça
l'assurance
peut
chômage,
il faut du courage, Emmanuel.
La réforme des fonctionnaires.
Voilà, Emmanuel, vous dites que la lettre au gouverneur est tous les ans la même, mais elle vous enflamme en plateau, manifestement. Quand bien même on commente la même
C'est le désespoir.
Emmanuel, non, pas un indice, on ne pas entendre ce mot-là. Allez, oui, un mot et après on passe à la suite.
Un petit mot, justement, qui fera le lien, justement. Là, mon invité qui donc fait MyLife 150, énergie renouvelable. Je dis, mais c'est très bien, les photovoltaïques, les éoliennes, mais les Français sont quand même assez contre. Et elle me dit, oui, ils ont raison. Mais je lui dis, comment ça? Vous prenez à Rotterdam, les éoliennes, elles sont dans le port de Rotterdam. Donc vous avez des grues, et puis en face, vous avez les éoliennes, ça choque personne. Quand vous en avez dans la Creuse, quand vous en avez
au
pied du château de Grignan, ou du Mont Ventoux, ça choque tout le monde. Ouais. Elle me dit, oui, mais je suis d'accord, mais il faut quand même voir que ça supplante au déficit. De l'État. Je lui dis, pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait vivre des tas de villages, des tas d'agriculteurs, vivent grâce à l'implantation d'éoliennes. Et en fait, c'est ça qui tient le tissu rural français. Ouais. Personne n'ose le dire, mais voilà. Elle a raison.
Elle a raison. Ouais. Voilà. Alors justement, en effet, transition parfaite, puisqu'on voit, et c'est quand même très inquiétant depuis plusieurs mois, que la transition énergétique est mise à mal par le ralentissement de la conjoncture. Exemple très concret aujourd'hui avec Tesla, qui baisse encore ses prix en France, en Allemagne et en Chine. Quand on voit les difficultés de Tesla, qui ne sont pas des difficultés isolées quand on les compare reste du secteur. Non, mais est-ce que ça vous inquiète pour la voiture électrique de manière générale, Emmanuel?
Bah, de toute façon, on a toujours dit que ces objectifs qui sont fixés comme ça, de façon totalement péremptoire et politique, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est pas parce que il y a encore que les politiques qui pensent que parce qu'on fixe des objectifs, miraculeusement, ces objectifs vont être atteints. C'est comme les députés qui pensent qu'il suffit de faire des lois pour, pour résoudre un problème.
Oui, non, parce que si on se fixe pas de cap, on n'arrive à rien.
Si vous ne donnez aucune clé,
ça donne un cadre.
Oui, ça donne un cadre, mais n'empêche que si vous n'avez pas les moyens d'avancer dans cette transition, parce que notamment il y a tout un tas de gens qui n'ont absolument pas les moyens de s'acheter tout ce qui serait nécessaire.
Non, mais c'est bien pour ça qu'il y a eu toute une politique de subventions publiques mises en place.
Oui, mais si vous prenez sur tous les sujets, on est très loin encore de ce qu'il faudrait mettre sur la table. C'est-à-dire que si vous regardez les ménages les plus modestes, oui, les aides automobiles, ça existe. Oui, les aides à la rénovation du logement, ça existe. Mais les restes à charge, encore une fois, qui restent...
Sont beaucoup trop élevés.
Oui, mais regardez, en fait, c'est à la seconde où les gouvernements et les pays... dont on parle, ont décidé de réduire ou d'arrêter les subventions, que les ventes ont chuté. Moins 75% en Norvège, en Finlande. Oui, non, mais
en
voilà.
Allemagne aussi, c'est en France, sur la voiture électrique.
Exactement. Non, mais donc les gouvernements s'étaient dotés quand même de moyens financiers, mais c'est sûr qu'au vu de la conjoncture économique, c'est beaucoup plus difficile de soutenir cette transition climatique que ce que l'on pensait.
Oui, mais en même temps, vous avez des règles. Quand vous discutez avec les entreprises de la transition écologique, que ce soit des Engie ou des Total Energy ou autres, hein, ou des entreprises ou des ETI, si vous voulez, ils croulent quand même sur les règles, les réglementations. Et en plus, vous prenez le 55, vous prenez toutes les réglementations qui ont été fixés par l'Europe, si vous voulez, c'est un véritable cauchemar. Et en plus, il y a des sortes de trucs complètement illogiques qui fait que ça a une répercussion sur les coûts. Il n'y a pas de standardisation. Vous prenez les pompes à chaleur, par exemple, et ben, il n'y a pas de standardisation.
Oui.
Donc, celui qui vend en Allemagne, et ben, il est obligé de tout refaire différemment quand il vit en France. Alors, je ne vous parle pas de toute la bureaucratie derrière, mais il n'y a aucune standardisation. On a envie de dire, si on veut faire un marché européen, transition, baisser les coûts, ben, ça serait, c'est un peu bête comme chose que je dis, mais ça serait très, très utile.
Ben, bien
sûr. Il y a des exemples comme ça, il y en a plein. Donc, c'est là où on se heurte au réalisme.
Ouais. Est-ce que c'est un peu ça qui est en train de se passer en ce moment? Il y a JP Morgan qui a planté le décor avec une note justement encadrer ce congrès annuel de l'énergie à Rotterdam, qui dit il faut revenir sur Terre, la transition ne peut pas avancer aussi vite que prévu parce que il y a une économie autour, il y a les taux d'intérêt, il y a l'inflation, il y a la réglementation. Est-ce que là on n'a pas cette transition énergétique qui est en train de se confronter au réel? Est-ce que c'est la phase qu'on est en train de vivre?
Oui, mais c'est pour ça que c'est, regardez par exemple les Écossais qui renoncent à leur objectif, mais pour une raison simple, c'est que quand vous voyez quand même que si vous prenez les objectifs qui étaient les objectifs de réduction de moitié des émissions de CO2 entre 90 et 2030.
Oui.
Vous voyez quoi? Vous voyez
55% même.
Vous voyez que on va devoir faire en 10 ans ce qu'on n'a pas réussi à faire en 30, et en plus sans changer les méthodes qui ont conduit à ce qu'on devait faire, on ne l'a pas fait.
C'est-à-dire, Emmanuel, vous voyez que ce soit en France ou en Allemagne, on réduit de 5% par an, là. On est beaucoup plus rapide, que ce qu'on a fait jusqu'à présent.
Alors, si vous voulez reprendre les grands
chiffres... L'an dernier, pardon.
Si vous voulez, alors, moi, je veux bien qu'on s'affole avec les pourcentages de variation en partant de bases très basses, mais la réalité, c'est qu'en fait, on a fait une très petite partie du chemin de ce qu'on aurait dû faire. Or, ce qui m'inquiète encore une fois,
mais c'est
comme la France
après 2030.
Avec ses finances publiques. C'est-à-dire qu'en gros, on essaye encore et toujours, alors que ça ne fonctionne pas, on essaye toujours de dire il faut faire... plus fort et encore plus spectaculaire et encore plus d'efforts en utilisant les mêmes méthodes. Et on ne voit que ça ne marche pas. Mais parce que, soyons pragmatiques par exemple, on se rend compte que pour financer et pour alimenter la transition énergétique, on a besoin d'énergie fossile massivement pour fabriquer toutes les énergies renouvelables.
C'est le paradoxe,
Bon, voilà.
Mais c'est pour ça qu'on parle de transition.
Mais c'est cette transition qui a consisté à dire il faut plus investir dans le pétrole, il faut plus investir, etc.
Mais oui, mais parce que vous le saviez mieux que moi, l'Agence internationale de l'énergie dit que si on veut respecter nos objectifs de l'accord de Paris, il faut arrêter tout de suite tout nouveau projet de forage. Or, mais c'est pas du tout ce qui se passe à l'échelle mondiale.
C'est pas du tout ce qui se passe, parce que quand on vous dit que la demande mondiale de pétrole va augmenter encore dans 40 ans, ça c'est des courbes de technocrates. C'est des technocrates qui prolongent des courbes.
Ah non, ce sont des courbes de scientifiques qui étudient le réchauffement.
Oui, mais les scientifiques, les technocrates, ils sont à côté de la plaque. Ouais. Jean Jouzel, il nous aura expliqué beaucoup de choses, mais il n'aura servi à rien, et il a même une part de responsabilité avec les gens.
Mais de la même manière que Patrick Pouyanné est aussi un peu à côté de la plaque.
Non, parce que si vous me dites demain à qui je fais le plus confiance pour qu'on ait une planète plus propre, je fais plus confiance à Patrick Pouyanné.
Vous pouvez pas dire ça.
Mais bien sûr que si. Mais parce que les gens dont vous parlez, c'est des gens qui sont pas dans l'action. C'est des gens qui sont dans les modèles.
Mais c'est dur de nous faire ça maintenant parce qu'il reste que deux minutes.
C'est des gens qui sont dans la théorie. Alors, qui soient à leur place, c'est très bien. Mais je veux dire, qu'ils ne nous expliquent pas au quotidien comment faire. Ils ne savent pas comment faire. Ouais. Ils nous imposent des trajectoires.
Mais attendez, on parle d'un patron
qui documente.
Vous nous parlez d'un patron qui n'a que pour objectif de développer le rendement de son entreprise.
Non, c'est pas vrai.
Vous pensez qu'il met l'intérêt général avant ses intérêts financiers?
La magie du capitalisme fait que l'intérêt de son entreprise sera un jour le même que celui de la planète et qu'il l'est déjà en partie.
C'est déjà en partie, puisqu'il y avait déjà des fonds qui ne veulent plus financer Total. Ouais, le Total tel qu'il existait, donc aujourd'hui c'est Total Énergie. Et donc on voit bien que la transition est en marche justement chez Total Énergie.
Oui, alors avec un procès en cours quand même de la part de l'État de Californie, intenté envers l'ensemble des majors du pétrole parce qu'elles ont caché beaucoup de données, notamment par rapport aux liens qu'elles ont avec le réchauffement climatique à l'échelle mondiale.
Mais ça c'est diagnostic, c'est très bien.
C'est évident.
Mais tout ce que ça a conduit en termes
de. Même chez Total, il y a des scientifiques. Pour le coup, c'est la base.
Le résultat est catastrophique, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Donc prenez l'exemple des Chinois qui ont choisi une autre méthode, qui est de se dire on se fixe un objectif, non pas à 20 ans ou 30 ans, mais à 70 ans. Oui. On essaie de l'atteindre. Et d'ici
là. Mais qui investissent massivement dans l'économie verte,
notamment dans la photovoltaïque.
Sauf que, encore une fois, ils continuent dans le même temps à investir pour satisfaire leurs besoins en énergie fossile. Donc qu'on développe effectivement toutes les énergies modernes. Mais encore une fois. Moi, je vous l'ai souvent dit ici, le principal risque qu'on a si on réduit trop les investissements dans les énergies fossiles, c'est qu'on va se retrouver face à une crise majeure qui ira jusqu'à compromettre cette transition énergétique. Regardez.
Avec une illustration dans la voiture. Je pense que c'est la voiture. Non, mais c'est vrai. Par rapport à ce que dit Emmanuel Le Chypre, pour regarder la voiture électrique, on dit c'est la solution, c'est formidable. En fait, comme dit Carlos Tavares, il n'y a eu aucune étude d'impact. Puis on voit bien qu'aujourd'hui, ça patine.
Oui, et on sait d'ailleurs que la voiture électrique, c'est aussi uniquement une question de transition.
Oui, c'est la transition.
C'est pas la meilleure
solution.
Il faut
de la transition. Ouais. Ils ont imposé ça avec des délais extrêmement courts, sans aucune étude d'impact, quand même.
Peut-être que ça bougera après les élections européennes. C'est un des enjeux, notamment. Merci, merci à tous les deux. Emmanuel Le Chypre, Edwige Chevrillon. D'un mot, votre invité Edwige demain.
Demain, Jean-François Rial qui présente ses comptes. On verra justement si les gens voyagent, les voyageurs du monde.
Ouais. Voilà. C'est probable. Allez, rendez-vous demain. Merci beaucoup, Edwige, Emmanuel. Et merci à vous, Audrey. C'est déjà fini.
Mais merci à vous, Tom Sass, pour cette première, cette semaine. On continue de décrypter l'actualité économique ensemble. À tout de suite.
Absolument.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Thomas Asportas, Good evening business.
19h sur BFM Business, bonsoir, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez dans la deuxième heure de Good Evening, on est en direct jusqu'à 20h avec Audrey Tcherkov. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Thomas et rebonsoir à tous.
Alors dans l'actualité ce soir, on a ce tacle, on va dire ça comme ça, de la Banque de France à Emmanuel Macron. Il faut arrêter de croire que la croissance va régler elle seule, par magie, nos problèmes de finances publiques. C'est le message clé de la lettre du gouverneur au président de la République, qui a sûrement dû apprécier le message. On va décortiquer tout ça ce soir avec nos experts, Audrey.
Oui, on vous parle aussi du monde qui se réarme à vitesse grand V. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas un scoop, évidemment, avec les guerres que vous connaissez, notamment en Ukraine et puis en Israël. Mais les chiffres publiés ce matin par le CIPRI sont quand même très impressionnants, avec des hausses d'investissement jamais vues depuis 15 ans. Et puis, au même moment, la transition énergétique, elle marque le pas. On en parle à l'occasion du Congrès mondial de l'énergie qui ouvre ses portes aujourd'hui aux Pays-Bas.
Et pour débattre ce soir, nos experts, Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School, Erwan Leno, en consultant en stratégie chez Altermind, et Henri Sterdignac, économiste à l'OFCE. On y va ?
Et tout de suite, c'est le journal.
Votre rendez-vous avec Sage. Sage, la gestion intelligente qui réinvente la finance. Good evening business, le journal.
Et on commence donc avec la lettre annuelle du gouverneur de la Banque de France au président de la République. Bonsoir Alexandra Pagé. Les temps ont changé visiblement Alexandra, puisque les lettres de 2022 et de 2023 étaient consacrées, on s'en souvient, à la lutte contre l'inflation, alors que celle de cette année appelle à rétablir d'urgence les comptes publics, Alexandra.
Exactement, Thomas. D'abord, un constat en forme et qui sonne comme une sonnette d'alarme. Croire que la croissance seule réussira à lutter contre les déficits est un vœu pieux, une illusion. La France fait désormais partie du club peu prisé des mauvais élèves de l'Union européenne avec un déficit creusé à 5,5% du PIB l'an dernier. Alors François Villeroy de Gallo le martèle, pour parvenir à maîtriser la dette publique, il faut commencer par s'attaquer aux dépenses avec un objectif raisonnable, stabiliser en volume les dépenses publiques. Alors la question c'est comment ? Alors que le gouvernement refuse de décider de nouvelles baisses d'impôts générales, le gouverneur de la Banque de France estime, lui, qu'il ne faut pas avoir de tabou en termes de fiscalité. D'une part, la France n'a pas les moyens de conduire de nouvelles baisses d'impôts non financées comme c'est prévu, c'est-à-dire la CVAE pour les entreprises et les 2 milliards d'euros prévus pour les classes moyennes. D'autre part, on peut envisager d'élargir l'assiette de certains impôts sur les ménages et les entreprises et de revoir certaines niches, Thomas. En clair, envisager certaines hausses d'impôts ciblées.
Merci beaucoup, Alexandra. Des hausses d'impôts, on verra. On sera fixé à l'automne dans le prochain budget. Des économies, c'est sûr, ça, il va falloir en faire, et notamment pour financer l'effort de guerre. Et on apprend aujourd'hui que les dépenses militaires ont battu tous les records l'an dernier à plus de 2400 milliards de dollars. C'est la hausse des dépenses d'investissement en armement la plus élevée depuis 2009. Jean-Baptiste Huette.
Plus de 2400 milliards de dollars de dépenses militaires l'an dernier. En progression de 6,8%, il s'agit là de la plus forte augmentation d'une année sur l'autre en 15 ans. Sans surprise, cette augmentation est directement liée au contexte de guerre et aux fortes tensions géopolitiques. Les États-Unis, la Chine et la Russie sont en tête du classement. Ce qui frappe, c'est l'écart entre le premier et le deuxième. Washington a mis plus de 916 milliards de dollars sur la table et Pékin environ 280 milliards. La France, de son côté, se classe 9e avec 61 milliards de dollars de dépenses militaires. Amérique, Europe, Asie, Océanie, toutes les zones sont en augmentation. Le Moyen-Orient également. Les dépenses militaires atteignent là-bas 200 milliards de dollars en hausse de 9%. Une forte augmentation des dépenses, hein, explique le CIPRI, qui reflète l'évolution rapide du contexte régional. On est passé d'un réchauffement des relations diplomatiques entre Israël et plusieurs pays arabes ces dernières années au déclenchement d'une guerre d'ampleur à Gaza. Et aux craintes maintenant d'un conflit à l'échelle régionale.
Jean-Baptiste Huette, 19h04. On part en Allemagne avec l'ouverture aujourd'hui de la foire de Hanovre, le grand rendez-vous annuel de l'industrie allemande. Et le pays place beaucoup d'espoir dans cette édition 2024, au moment où son économie est en berne. Sur place pour BFM Business, notre correspondante en Allemagne, Salomé Hénin-Cohen.
La foire d'Hanovre, qui existe depuis 1947, c'est l'industrie du numérique, des nouvelles technologies, de la mécanique et de l'énergie, toutes réunies sous le même toit, et ce, pendant 5 jours. Au programme de cette édition 2024, numérisation, automatisation des processus de production ou encore intelligence artificielle et surtout développement de l'hydrogène. La foire a d'ailleurs choisi la Norvège comme pays partenaire, leader dans le domaine. Oslo pourrait fournir de grandes quantités d'hydrogène vert dans les prochaines années à l'industrie sidérurgique allemande qui en aura grandement besoin. Sont attendues aussi les entreprises allemandes comme Siemens, Bosch ou encore Volkswagen. Mais ce sont probablement les mots du chancelier Scholz qui devraient marquer cette édition 2024 alors que l'économie allemande traverse une phase assez difficile. Dans son dernier rapport, la Bundesbank ne voit d'ailleurs pas de signe significatif de reprise de l'économie, malgré un premier trimestre encourageant. Mais ici, on espère tout de même que cela sonnera la fin du ralentissement après plus d'un an de stagnation.
Salomé Hénin-Cohen, sur place en Allemagne pour BFM Business. 19h06 dans l'actualité des entreprises. C'est une nouvelle semaine décisive qui s'ouvre pour l'avenir d'Atos, puisque l'entreprise présentera vendredi les offres reçues pour son sauvetage. Son premier actionnaire Winepoint développera et dévoilera la sienne dès mercredi. Et puis en parallèle de ça, l'État étudie la possibilité d'entrer au capital de BDS. Derrière ces trois lettres se cachent les activités sensibles de défense nationale d'Atos. Mathieu Pechberti.
C'est une petite société d'Atos qui concentre l'attention du gouvernement. MCS, pour Mission Critical System, est au cœur de la défense nationale. Elle s'occupe du combat aérien des Rafales, des écoutes de la DGSE ou encore de la simulation des missiles de l'armée. Le ministère de l'Économie a déjà négocié une action spécifique et des droits de gouvernance pour protéger MCS. Mais selon nos informations, il réfléchit à aller plus loin et étudie une prise de participation minoritaire au capital de BDS, la division qui contient MCS, ainsi que les supercalculateurs et la cybersécurité d'Atos. Le groupe n'y est pas favorable et brandit déjà la facture. Il en coûterait 180 millions d'euros à l'État pour prendre seulement 10% de cette branche, valorisée 1,8 milliard d'euros lorsqu'Airbus a failli la racheter au mois de février. L'État a déjà essayé d'intervenir par l'intermédiaire de Thales, dont il détient 26%. Selon nos informations, le groupe de défense a déjà approché Atos en début d'année pour lui racheter sa petite société MCS, mais il a été éconduit.
Mathieu Pechberti. Et puis pour finir, on va parler de nos routes et de nos autoroutes. Puisque vous le savez, l'autoroute A13 est fermée depuis vendredi. Elle est toujours fermée. On espère sa réouverture cette semaine. Fermeture liée à des fissures allant jusqu'à 80 cm de profondeur. Ça pose évidemment la question de notre réseau routier, de nos routes françaises. Et le constat est clair, malheureusement. Le réseau s'est dégradé d'année en année avec de grosses insuffisances d'investissement. On fait le point avec Timothée Marozet.
La France était en 2012 en tête du classement mondial sur la qualité des infrastructures routières. 7 ans plus tard, elle dégringole à la 18e place. Pourtant, elle détient le réseau routier le plus dense d'Europe. Il s'étend sur 1,1 million de kilomètres. Raison pointée de ce déclassement, la décentralisation et la gestion des routes confiées aux départements et aux communes. Depuis 20 ans, les effectifs du réseau scientifique et technique de l'État ont été divisés par deux. Et dans un rapport de 2022, la Cour des comptes pointe également un suivi insuffisant de l'état des routes. Côté investissement, même si les enveloppes sont passées de 775 millions d'euros en 2016 à 1 milliard d'euros par an à partir de cette année, tout cela reste encore très insuffisant pour la Cour des comptes. C'est un véritable choc d'investissement qui est nécessaire, plaide de son côté la Fédération nationale des travaux publics. Des sommes colossales, indispensables pour faire face au défi du réchauffement climatique qui soumet le réseau routier à une extrême vulnérabilité.
Timothée Marozet, 19h09, on retourne sur les marchés. Les marchés, je vous redonne la clôture du CAC à Euronext, première séance de la semaine en hausse. On gagne 0,22% à 8040 points. Bonsoir. 40 points, pas du tout, 40 points, 8040 points. Bonsoir, Rodker Sulek.
Bonsoir.
Comment ça se passe à Wall Street?
Eh bien, ça monte, on remonte de 0,4% pour le Dow Jones et le S&P, et le Nasdaq prend lui 0,3%. Alors, on tente le rebond après la semaine passée qui a quand même été assez horrible, notamment le Nasdaq qui a perdu 5,5%, le S&P 3%, la faute notamment aux valeurs technologiques qui baissaient beaucoup, à l'image de Nvidia, on perdait 10% vendredi. Là, on se reprend, le titre est en hausse de 2%. Alors, il y a eu évidemment la montée des taux obligataires la semaine passée. Les gouverneurs aussi de la Réserve fédérale qui étaient nombreux à s'exprimer, qui disaient qu'on n'allait pas baisser les taux tout de suite. Il faut savoir que cette semaine, on ne les entendra pas puisqu'ils se réunissent dans 8 jours et ils sont en période de blackout. Et puis, on a également des valeurs qui baissent. Un Tesla, la coupe des prix annoncée ce week-end. Vous savez, dans beaucoup de pays, dont la France, la Chine, eh bien, ça ne plaît pas aux investisseurs et qui craignent cette guerre des prix. Le titre perd encore 4%. Il en baisse de 43%. Ouais. Depuis le début de l'année. Et puis une entreprise qui publiait aujourd'hui, une des seules à publier aujourd'hui, c'était Verizon. Là aussi, on est dans la tech. On a manqué tout juste les estimations de chiffre d'affaires. C'est largement sanctionné. On perd aussi 4%. Voilà, grosse semaine de résultats. On va avoir 4 des 7 magnifiques qui vont publier. Ça commencera demain avec Tesla. Et puis on aura ensuite Google, Alphabet ou encore Meta.
Bon, une semaine sur les marchés animés par les résultats d'entreprises et pas n'importe lesquels. Merci beaucoup, Rodker Sulek. 19h10, on marque une pause et on retrouve Audrey Tcherkov et nos experts. On est en direct jusqu'à 20h. A tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Les experts du soir sont là. On est en direct jusqu'à 20h avec Audrey Tcherkov.
Rebonsoir.
Rebonsoir, Audrey. Bonsoir. Erwan, consultant en stratégie chez Altermind. Face à vous, Henri Sterdignac, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste à l'OFCE. Et puis Nathalie Janson qui
est en rejoindre.
Mais voilà. Oui, elle arrive d'une seconde à l'autre. Un peu d'indulgence et de patience, messieurs. On commence quand même avec la lettre annuelle. C'est un rituel en France du gouverneur de la Banque de France au président de la République pour lui donner ses conseils, sa feuille de route économique et budgétaire. J'ai retenu cette phrase qui ressemble quand même dans la bouche d'un gouverneur de banque centrale à un tacle, on va dire ça comme ça. Il faut sortir de l'illusion que la croissance va régler à elle seule nos problèmes de finances publiques. Ça, pour le coup, c'est mot pour mot la stratégie d'Emmanuel Macron, et le gouverneur dit que ça ne marche pas. Henri Sterdignac.
C'est exagéré. Bien sûr, si on a de la croissance, ça permettra en partie de résoudre notre problème de déficit public. Si on a 2 points d'activité, ben c'est un point de déficit public en moins, donc c'est pas négligeable.
Ça, c'est automatique, ça.
C'est automatique.
Non, mais d'accord, c'est pas négligeable. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que tout miser sur la croissance ne suffira pas. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, mais personne n'a jamais dit que tout miser sur la croissance suffirait, bien que ça peut alléger une partie importante du problème.
Oui.
On a, grosso modo, 2 points de déficit de trop. S'il y en a 1 point qui est allégé par la croissance,
c'est mieux.
Et 1 point par le fait qu'on va pouvoir réduire les subventions liées au prix de l'énergie, c'est déjà pas mal. Ensuite, ça réduit quand même en grande partie le problème. Ça suffit pas, bien sûr.
Non,
non mais le président de la République dit que c'est l'essentiel du chemin. Il dit si on a de la croissance et un plein emploi comme en Allemagne, il n'y a plus de problème de finances publiques.
Oui, mais...
Vous voyez bien, c'est ça qu'il répète à longueur de journée, beaucoup plus que de parler d'économie.
Ah ben oui, d'accord. Avec le plein emploi, effectivement, on n'aurait pas de problème de dépenses publiques. Le tout, c'est d'atteindre le plein emploi.
Le tout, comme vous dites.
Erwan, avec 20 milliards d'euros à trouver, on est bien d'accord qu'il n'y a pas un seul pays au monde qui dépense autant d'argent public rapporté à son PIB. On est obligé de passer par un plan d'économie de la dépense, de simplifier l'action publique et de la rendre plus efficace.
Oui, c'est d'ailleurs ce qui est plus que dit François Villeroy dans sa lettre. C'est effectivement, il parle du fait que la croissance ne suffira pas. Il dit aussi qu'il faut prioriser les dépenses. Et c'est d'ailleurs, il insiste beaucoup là-dessus. Il dit le cœur du sujet, c'est quelles sont les priorités de nos dépenses publiques. Il faut revoir l'ensemble des dépenses publiques. Et c'est là où effectivement, je pense qu'il pointe le doigt. Et c'est là où on attend le gouvernement. Pourquoi est-ce que le gouvernement a commencé au départ, Gabriel Attal, un peu avait dit on a un problème de finances publiques. On a compris que ça a été considéré comme étant un peu trop anxiogène à l'approche des élections.
Ouais.
Parce que tout le monde y a entendu la musique de fond qui était il va falloir baisser les dépenses et probablement peut-être aussi augmenter les impôts. C'est pour ça que le message sur la croissance est revenu en avant. Mais je pense que personne au gouvernement de sérieux, et c'est plutôt des gens sérieux en la matière, ne pense que la croissance va résoudre les problèmes de déficit public, de dette publique, ni de rationalisation de la dépense publique.
Nathalie Janson, puisque vous êtes arrivée en retard, c'est à vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
On vous accueille avec plaisir.
Est-ce que vous dites, Nathalie, qu'il y a une lueur d'espoir? Parce que, pardon, mais pour le moment, les réformes structurelles, on n'en voit pas la lueur. La réforme de l'État, la révision du statut de la fonction publique, le fameux système des retraites qui finalement ne fonctionne pas, on ne s'attaque pas à ce qui pourrait apporter beaucoup d'argent et à ce qui pose problème.
Non, mais effectivement, et ça fait, bon, c'est pas nouveau comme problème, sauf que là, ça devient pressant. Donc, on l'a déjà répété plusieurs fois, effectivement, il y a vraiment un problème de vision sur ce que devrait faire l'État, d'être beaucoup plus clair, puisqu'on a fait, du en même temps, on a beaucoup dépensé. Donc maintenant, le message est brouillé. Ça fait longtemps qu'il est brouillé, mais là, disons qu'on s'était un petit peu enfoncé avec toutes les périodes qu'on a eues. Et là, en fait, ça fait longtemps qu'effectivement, il faut avoir, une vision de l'État qui n'est pas là. Enfin, en fait, voilà, il n'y a pas eu. Et de toute façon, Emmanuel Macron n'a pas eu cette ambition. Et c'est dommage, parce qu'un deuxième quinquennat, on peut tenter.
Voilà, c'est ce que
tenter l'aventure.
Emmanuel Le Chypre sur cette chaise, vous êtes habité par l'esprit d'Emmanuel.
Emmanuel m'a inspiré. Mais c'est clair que dans un deuxième mandat, on s'attend, enfin, on peut prendre des risques. De toute façon, au pire, on ne risque plus rien du tout.
On n'est pas réélu.
Et c'est vrai que c'est très, très dommage qu'il n'ait pas eu ça en ligne de mire, puisque je ne vois pas quel autre gouvernement va s'y atteler.
Alors, Henri Sterdyniak.
Au départ, il avait quand même une ambition qui était la politique de l'offre.
Oui, mais c'est pas suffisant.
Il y avait quand même l'idée en baissant fortement les impôts sur les plus riches et sur les entreprises, ça allait impulser la croissance et ça allait financer cette réduction d'impôts.
Ouais.
Donc au total, il a réduit les impôts d'environ 70 milliards d'euros, mais il n'a pas eu l'effet sur la croissance.
Non,
et on peut discuter ensuite, est-ce que c'est une erreur de diagnostic ou est-ce qu'il n'a pas, eu de chance avec le Covid?
Ça a fonctionné, cette politique de l'offre, dans la mesure où on a eu un nombre historique de création d'emplois. Sauf que ça ne s'est pas traduit dans la croissance parce qu'on a ce grand problème de productivité.
Erwan.
Et puis, moi, j'allais revenir en deux mots, pardon, sur la dépense publique, parce que je pense qu'un point important, c'est que c'est un sujet économique, mais c'est aussi aujourd'hui dans notre pays un sujet politique. Mmh. Pourquoi est-ce que l'extrême droite est aussi forte? Pourquoi est-ce que l'extrême gauche est forte en France? Parce qu'un grand nombre de Français ont l'impression qu'on a beau, un, leur prélever de l'argent, deux, en dépenser beaucoup, les politiques publiques ne sont pas efficaces, ne leur offrent pas de services publics de qualité.
Ah, bah ça, même la majorité le reconnaît. Voilà,
l'école s'effondre.
On a commencé par Gabriel Attal. On n'en a pas pour ses impôts. Oui, c'est sa formule.
Exactement. Mais si derrière, il n'y a pas de. La priorité de la réforme de l'État, ça peut être une question économique. Moi, je pense que c'est d'abord une question politique. On ne fera pas baisser les extrêmes dans ce pays tant qu'on aura un État qui est aussi inefficace et qu'on on ne permet pas de redonner de la mobilité sociale dans le pays. Ça passe par, effectivement, prioriser les dépenses publiques. On pourrait même se dire, gardons le même niveau de dépenses publiques, mais assurons-nous que ce qu'on dépense est efficace.
C'est ce que dit le gouverneur, d'ailleurs. Il faut qu'on arrive à stabiliser en volume, la dépense publique. Il ne dit même pas qu'il faut faire de l'austérité, il dit juste, stabilisons la dépense.
Mais stabiliser en volume les dépenses publiques, c'est déjà dans le pacte de stabilité
qui n'est pas respecté, que
nous venons d'envoyer à Bruxelles. Ce n'est pas une découverte. Ensuite, se pose la question, comment il va faire contre tenu de tous les besoins qui existent, le fait que la population vieillit, le fait qu'on a besoin d'argent pour la transition écologique. Donc on peut dire que c'est quand même une promesse de Gaston, sachant qu'il n'y a pas dans le programme de stabilité
la manière de faire les économies.
Pour revenir sur votre question, ce qui a fait les emplois, c'est un miracle. C'est la chute de la productivité, miracle si on peut dire. Ouais. Mais c'est surtout le fait que effectivement, le gouvernement a créé des postes d'apprentissage.
Oui.
Qui créent de l'emploi, mais beaucoup, pas de production. Qu'on a fait des emplois bas de gamme qui ont un impact sur la productivité, sur la production faible. C'est ça le miracle Macron, peut-on dire.
Mais alors, Erwan parlait, disait, alors peut-être à juste titre, que ce sont des gens qui sont très sérieux au gouvernement, qui sont en charge de mettre en place les budgets, etc. Mais quand on voit, qu'est-ce qui se passe depuis le 1er janvier 2024? On sort deux fois du chapeau 10 milliards d'euros à trouver comme ça, alors que fin décembre, pour fêter Noël, on nous annonçait que tout allait bien. Mais ça manque quand même de sérieux. Enfin, on ne peut pas dire que le budget n'a pas été fait sur une base insincère.
Mais il y a deux choses, je pense. Est-ce que les personnes qu'on a aujourd'hui au gouvernement sont des formations technocrates qui leur permettent de bien comprendre comment on fonctionne les finances publiques? Oui. Est-ce qu'ils savent que quand ils font des annonces, ça n'est probablement pas crédible? Aussi. Je rappelle que le rapport Pébro de 2004 ou 2005, je crois, sur la dette publique, avait un titre, c'était « Pour rompre avec la facilité de la dépense publique ». Et ça nous disait à l'époque, il est plus simple pour un gouvernement d'annoncer des dépenses que d'engager des vraies réformes. Mais ce gouvernement, mais comme les précédents, est exactement dans la même dynamique.
Ouais. Il y a aussi la question de savoir si c'est le bon moment pour faire des économies, puisque la croissance est faible. Et là-dessus, pour le coup, le gouverneur vous répond, l'OFCE. Vous avez publié une étude il y a une dizaine de jours pour dire que les économies auraient un effet partiellement récessif.
Oui.
Le gouverneur dit que ce serait très modéré comme effet. Vous n'êtes pas là pour le coup,
je ne sais pas comment le gouverneur le sait.
Le gouverneur peut toujours le dire.
Le problème, c'est quels sont les arguments dessous. Le problème, c'est le gouvernement. Si le gouverneur disait, je vais baisser massivement les taux d'intérêt, donc vous pouvez réduire les dépenses publiques parce que il y aura une compensation par la baisse des taux d'intérêt de votre baisse des dépenses publiques, ce serait crédible, mais on n'est pas dans cette optique. Donc on voit mal quels sont les arguments précis du gouvernement. Par ailleurs, ce qui est bien sûr choquant, c'est que on nous dit on va réduire de 10 milliards les dépenses publiques alors que les contribuables pouvaient penser que quand même les dépenses publiques avaient été pensées, qu'elles étaient utiles, et que brusquement, on s'aperçoit qu'il y en avait finalement 10 milliards de trop qu'on peut éliminer sans problème.
Et surtout,
c'est quand même pas très sérieux.
Surtout que, Henri, on rogne sur les dépenses d'avenir, on rogne sur l'éducation, on rogne sur la transition écologique. Et puisque Thomas parlait de l'OFCE, on illustre quand même le dernier chiffre. Vous dites qu'en 2024, la croissance, c'est 0,5%.
Oui, mais...
Non, mais ça fait mal quand même.
D'accord, mais c'est 1% moins les politiques budgétaires mises en œuvre. Oui, voilà, ça fait
0,5. 1% c'est l'objectif du gouvernement, ouais. Et vous dites que les économies...
Les économies, ça fait 0,5 de moins. Ça fait, donc on arrive à 0,5. Et bon, ça sera 0,5 ou 0,7, il y a quand même déjà beaucoup d'acquis. Et voilà, donc...
L'un des moteurs de la croissance cette année, ce serait la poursuite des baisses d'impôts, même s'il en reste beaucoup plus. Et là aussi, le gouverneur dit qu'on n'a plus les moyens de baisser les impôts. Ça aussi, il fait un peu de politique. Il dit, les 2 milliards de baisse sur le revenu pour les ménages, stop. Et la CVAE, stop, on n'a plus les moyens de baisser les impôts en France. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter les baisses d'impôts? Ou se dire que c'est un investissement sur l'avenir et que ça paiera plus tard?
Le problème, c'est comme là où on parlait de l'éducation, où en fait on rogne sur les dépenses. Si on faisait des réformes qui accompagnent, on ne baisserait pas forcément la qualité. Le problème, c'est qu'on a toujours le même système et on baisse les dépenses. Parce qu'il y a plein de choses à faire dans l'éducation. Il peut y avoir... En plus, on a été plombé par un beau rapport sur l'école privée qui a été mal ficelée et en plus qui met en exergue que, soi-disant, l'école privée fonctionnerait pas bien, serait chère. Ce qui est très
Le rapport disait qu'il n'y avait pas de contrôle. L'absence de contrôle.
Oui, enfin bon, bref.
Bon, mais c'est pas
passons
le sujet.
Là-dessus, pas le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous baissez les dépenses et vous changez rien, effectivement, il y a peu de chances qu'il y ait des miracles. Et donc, effectivement.
Non, mais sur les baisses d'impôts, est-ce qu'il faut tenir sur les baisses d'impôts?
Oui, les impôts, oui. Je veux dire, par rapport à pouvoir poursuivre la dynamique économique et puis vouloir aller de l'avant sur l'offre, il faut, bien sûr, qu'il y ait surtout les impôts de production.
Oui.
Je pense que c'est quand même les premiers à pouvoir.
Non, mais parce que.
Les 2 milliards sur l'impôt sur le revenu, c'est pas la peine. Personne ne les verra. Je veux dire, 2 milliards, c'est peanuts. Donc ça, on peut renoncer. La CVAE, les 4 milliards, on peut effectivement... Les 3 milliards qui restent, on peut effectivement se permettre de les supprimer. Et puis, effectivement...
Donc on supprime.
On peut, oui.
C'est 1 milliard par an.
C'est 1 milliard par an, c'est pas grand chose.
Même aujourd'hui, on peut le faire.
Ça arrêtera un argument. C'est pas avec ça qu'on fera de la compétitivité.
Un peu.
Si ça sert à rien, autant les garder. Alors.
Oui, c'est ça.
C'est 3 milliards, sur un montant de 2000 milliards de production des entreprises. Ça va nous faire 0,1%.
Oui, d'accord, mais au moment où on doit réindustrialiser, reprendre des parts de marché à l'échelle internationale...
La question, c'est effectivement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux concentrer nos faibles moyens sur la transition écologique, sur la décarbonation, sur des choses qui existent, plutôt que donner 2 milliards qu'on ne verra pas.
Oui, ça c'est sûr.
Erwan, une dernière précision, parce que depuis que la lettre est parue, on entend dire que François Villeroy de Galhau dirait qu'il est ouvert, non seulement appel à un gel des baisses d'impôts, mais en plus est ouvert à d'autres augmentations
d'impôts.
Je cite, aucune mesure fiscale réaliste ne sera à la mesure de la dérive des dépenses. Oui. En gros, il dit faut vraiment couper dans la dépense, et après, si ça ne marche pas, on augmentera les impôts. Oui, oui. Mais c'est vraiment, la ligne de la lettre n'est pas du tout de plaider en faveur d'une augmentation d'impôts.
Ce que le gouverneur de la Banque de France fait, c'est qu'il pointe du doigt les dépenses de fonctionnement du gouvernement. Je rappelle que c'est le gouvernement le plus cher de la 5e. Exactement.
Quelles dépenses de fonctionnement
du gouvernement, Henri?
C'est quoi les dépenses de fonctionnement du gouvernement?
Dans tout le sujet, la dépense publique,
du gouvernement.
Non, les dépenses de fonctionnement.
Et des ministères qui sont censés d'ailleurs chacun produire une feuille de route pour proposer des économies. Et pour le moment, cette revue des dépenses, tant promise par Bruno Le Maire, on l'a pas encore.
On peut gagner. Le gouverneur nous dit quand même, je ne sais pas s'il donne le chiffre précisément, j'ai oublié, mais qu'on peut gagner quand même 10 milliards en supprimant un certain nombre de niches fiscales inutiles.
C'est le mot qu'il emploie, il est intéressant.
On peut gagner une dizaine de milliards.
Il y a des tabous en France sur les niches fiscales?
Non, mais si la France était un paradis fiscal, ça se saurait, non?
Oui, exactement. Il y en a un, c'est celui qui n'est pas un tabou, mais il y en a qui est un peu qu'on ne veut pas toucher, c'est celui effectivement du travail à domicile, parce qu'on sait très bien que si on le touche, il va y avoir un retour de travail au noir qui sera quand même assez considérable. Donc ça, effectivement, il vaut mieux y penser une fois. Mais à nouveau, c'est toujours pareil. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que en baissant des impôts, il y a aussi le fait d'enlever les carcans réglementaires. Enfin, je veux dire, on peut penser, comme le dit souvent Emmanuel Combes, qui est très bon sur la concurrence, je veux dire, agir sur la concurrence, rendre les secteurs
concurrentiels. Mais ça, Nathalie, c'est la grande promesse, du gouvernement, de simplification.
Oui, et ça, c'est pas fait. Donc, même
plus que deux jours à attendre, le projet de loi sera présenté mercredi.
On en reparle
mercredi, Bruno.
Mais c'est vrai que ça coûte pas d'argent, par exemple.
Et Erwan,
c'est censé en faire économiser.
Oui, bien sûr. Bah, il est censé ouvrir à la concurrence, surtout.
Voilà. Erwan, non ?
Non, pardon.
Ah bah si,
il ne faut pas s'excuser. Allez, 19h30, je vous redonne les principaux titres de l'actu et on poursuit le débat.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h33 sur BFM Business, nous sommes avec Nathalie Janson, Erwan Lenoine et Henri Sterdignac, avec des experts dissipés pendant la pub.
Mais disciplinés quand la caméra se rallume.
Alors justement, on parle maintenant de transition énergétique avec ce congrès mondial de l'énergie qui ouvre ses portes aujourd'hui aux Pays-Bas. Alors on voit depuis plusieurs mois, et c'est assez tragique, que la transition énergétique est largement mise à mal par le ralentissement de la conjoncture, et c'est illustré par cet exemple très concret. Aujourd'hui, avec Tesla qui baisse encore ses prix, Thomas en parlait durant le journal. Alors, baisse des prix en France, mais aussi en Allemagne et en Chine. Quand on voit ces difficultés, est-ce que ça vous inquiète quant au destin, de manière générale, de la voiture électrique ? Nathalie ?
Moi, pas tant que ça. Je trouve que, d'abord, on ne sait pas si ça sera vraiment la solution de l'avenir. Voilà, ça a peut-être été une étape intermédiaire, on verra. Moi, ce que je trouve bien, c'est que, effectivement, alors bon, c'est vrai que les Chinois ont mis le paquet, donc c'est pour ça que Tesla, sans doute, doit aussi mettre le paquet. Donc, maintenant, Elon Musk, après avoir su ce que c'était que d'avoir l'avantage du premier arrivé avec en gagnant un pari que tout le monde, venant d'un milieu où j'entends beaucoup parler d'automobile, moi je me rappelle de l'arrivée d'Elon Musk, c'était non mais il n'y arrivera jamais, il ne passera pas la barrière industrielle,
ça ne marchera jamais,
c'est exactement. Donc, bon,
comme disait un certain constructeur français,
c'est sympa d'avoir vu qu'il y est arrivé, et puis là il se retrouve face à de la concurrence,
ouais.
et voilà, et il expérimente les trucs basiques en économie, c'est-à-dire que j'ai de la concurrence, donc je baisse le prix pour voir si mon élasticité, c'est-à-dire que effectivement si ma demande répond, c'est-à-dire que effectivement je vais bien avoir des consommateurs qui vont rester avec moi et pas me quitter pour aller voir une autre marque.
Wall Street y croit pas trop. Tesla perd encore 4% là cet après-midi depuis ses annonces.
C'est un autre pari. Enfin,
c'est dur.
Moi, je suis pas si inquiète que ça. Je pense qu'il y a des bonnes choses qui naîtront de ces changements. Et de toute façon, on va quand même vers une nouvelle conception de la voiture. Donc, je suis pas si inquiète que ça. Par contre, effectivement, celui qu'on pensait avoir été le roi de la voiture électrique, c'est très bien. Je trouve que c'est un bon exemple de montrer que la concurrence, quand on a un avantage, il est souvent temporaire et pas forcément de longue durée.
Bon, après Emmanuel Le Chip, c'est Emmanuel Combes qui a pris la possession du corps de Nathalie Janson. Au-delà du cas de Tesla, on a quand même un gros coup d'arrêt sur les ventes, chiffres.
Oui. L'Allemagne aussi a beaucoup baissé,
Comment on explique là vraiment ce coup de la panne, enfin sans mauvais jeu de mots, mais
c'est l'arrêt des subventions, je pense que c'est surtout.
C'est aussi bête que ça ?
L'Allemagne, c'est le cas, la France, c'est le cas. Le fait que les consommateurs, visiblement, sans subvention, ça demeure compliqué à acheter, quoi.
Mais c'est vrai, c'est quand même intéressant, parce que quand on regarde le calendrier, Thomas, quand la Norvège décide d'arrêter les subventions, un mois après, c'est moins 75% d'achat de voitures électriques en moins. Donc c'est forcément lié, les ventes baissent parce que les subventions baissent, Erwan.
Oui, mais moi je rejoins absolument ce que disait Nathalie. On est sur des marchés qui n'ont pas encore complètement non plus trouvé leur équilibre concurrentiel et où en partie l'offre et aussi la demande sont solvabilisées par des actions publiques. Et donc quand elles s'arrêtent, ces aides publiques, ça permet de voir exactement, de ramener le marché vers une forme de réalité qui est parfois difficile, qui est qu'effectivement il y a d'autres producteurs qui peuvent être compétitifs. Alors dans le cas chinois eux-mêmes, probablement, je connais pas assez le secteur chinois, mais fortement subventionné. Et dans le cas de la demande des consommateurs qui n'ont pas toujours les moyens d'investir dans des véhicules électriques. Mais je pense que c'est le défi général, au demeurant, de la transition écologique aujourd'hui. C'est-à-dire, comment on rend l'offre compétitive et comment on solvabilise la demande.
Mais alors, est-ce que c'est ça la question, Henri Sterdignac ? Est-ce que la transition écologique pèse encore trop lourd aujourd'hui dans le budget des ménages moyens, des classes moyennes et des ménages les plus modestes ?
La transition écologique n'est pas rentable, elle coûte cher. Voilà, il faut être conscient du problème, c'est que quand vous avez une solution qui est satisfaisante pour le climat, elle est forcément plus chère que la solution toute bête qui, effectivement, émet, fait de la pollution, émet des gaz à effet de serre.
Donc ça veut dire que ça ne peut pas se faire sans les dispositifs d'aide publique.
Donc ça peut marcher que si on a une aide publique importante ou... Ce qui est une première manière, ou l'autre manière, c'est de dire on interdit les véhicules thermiques et puis on taxe très fortement les véhicules thermiques. Et sinon, on ne va pas réussir.
Parce que toutes les voitures vont coûter une fortune à ce moment-là. Plus personne ne pourra s'en acheter une.
Le problème, c'est que la transition écologique, ça a un coût.
Ouais.
On va le dire, il faut le dire, ça a un coût en termes de pouvoir d'achat. Ouais. Donc soit on ne le fait pas et on dit tant pis, on vivra, nos enfants, nos petits-enfants vivront dans un univers beaucoup plus chaud, ils se débrouilleront. Ouais. Soit on
le fait. Non, mais bien sûr que non, il ne s'agit pas de dire ça, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui...
Il y a un sacrifice important aujourd'hui, et il y a un sacrifice, et deuxièmement, ce sacrifice, il faut le piloter. C'est pas forcément le marché qui va nous donner les bonnes orientations et il faut choisir. Je suis désolé. Les voitures électriques, oui, mais quel genre de voiture électrique? Est-ce qu'on favorise les grosses voitures électriques, les petites voitures électriques? Et là,
Quel mix énergétique?
C'est un choix délicat.
Nathalie, oui, vous êtes en général une fervente défendrice des fondeuses du marché, enfin de la loi du marché. Est-ce qu'il faut s'en remettre, à cette loi-là?
Je pense qu'effectivement, il faut laisser en tout cas l'initiative à l'innovation, parce que si vous l'empêchez, donc là, à nouveau, plus vous empêchez d'eux, moins vous aurez de solutions qui vous sera proposée. Mais la solution, je ne crois pas à la planification verte. Que l'État ne sait pas forcément quelle sera la technologie qui sera la plus intéressante pour l'avenir. Je ne vois pas pourquoi il le saurait mieux que d'autres. Donc c'est pour ça que je préférerais effectivement m'en remettre au marché. Mais pour ça, il faut effectivement libérer les accès à l'innovation. Donc on en revient toujours à la même chose. En France, le problème, et en Europe de façon générale, c'est que vous avez des marchés relativement réglementés, même pour ce qui concerne l'innovation. Et puis vous avez un problème d'accès des conditions au financement. C'est-à-dire qu'en fait, on a un marché qui est assez étroit en termes de financement, donc ça aide pas. Quoi.
Est-ce que vous êtes prête à augmenter massivement la taxation du carbone et la taxation des activités polluantes pour que effectivement, dans ce monde avec des taxations très importantes, on laisse les gens jouer le jeu?
Pour qu'il y ait un signal prix.
Pour qu'il y ait un signal prix. Une fois qu'il y a le signal prix, on peut laisser le marché.
Mais s'il n'y a pas le signal prix, c'est que tout va coûter cher. Ça ne fera pas baisser pour autant. C'est pas des vases communicants. Ça ne fera pas baisser l'offre verte en face.
Non.
Oui, l'offre noire brune va coûter plus cher, mais la verte, elle va pas baisser de prix.
Non, mais surtout,
sera cher, en fait.
Il y a un coût.
Il y a une rationalité économique à taxer les activités polluantes. Vous mettez un prix sur les fameuses externalités négatives. Je parle sous le contrôle d'économiste. Mais on rejoint le sujet de précédent. C'est-à-dire, dans quel contexte vous le faites? En France, comment est-ce que vous voulez augmenter les taxes? Ça n'est juste pas possible. Donc, ça veut dire que si vous voulez augmenter les taxes environnementales, il faut en baisser d'autres. Il faut au moins rendre. Sinon, vous allez asphyxier l'ensemble de l'économie française. Donc, c'est pour ça que refaire un petit bond en arrière. Le sujet de la réforme de l'État est capital pour mener l'ensemble des politiques, y compris de transition environnementale. Après, je rejoins et j'applaudis Nathalie. Je pense que l'innovation, c'est la meilleure solution que la planification. Si l'État savait anticiper ce qui arrive demain, alors que pas plus que nous, il a anticipé le Covid, quoi que ce soit, ça saurait. L'État. Mais ce n'est pas une critique de l'État. L'État n'a pas d'informations supplémentaires.
C'est pas dire ce qu'il faut faire, mais c'est fixer un cadre. Dire à telle date, on réduit le temps.
Oui,
et après, vous débrouillez.
Oui, mais c'est là où il ne faut pas se tromper. Tout le monde nous dit qu'il faut faire la politique. Regardez la TARPA américaine, regardez ce que font les Américains, mais les Américains ne font pas du tout de la politique industrielle comme nous. Nous, on dit tiens, on pense que le véhicule électrique de telle taille, de telle couleur, avec tant de fauteuils à l'arrière, c'est ça l'avenir. Et on va miser uniquement là-dessus. Les Américains qui font de la politique industrielle vous disent voilà l'objectif et on va subventionner et on va faire de la concurrence pour faire de l'innovation. Ça, c'est une politique industrielle qui marche. Elle a des défauts par ailleurs et les politiques industrielles européennes par ailleurs peuvent avoir des avantages. Mais se dire que parce qu'on est l'État ou parce qu'on est la Commission européenne ou parce qu'on est investi soi-disant de l'intérêt général, on saurait mieux définir que les autres de quoi l'avenir sera fait, ça n'est pas vrai et ça ne peut pas produire les bonnes solutions.
Non, d'accord, mais c'est vrai que pour en venir à ce que proposait Henri, si le gouvernement mettait en place une taxe qui viendrait ponctionner les produits qui ont une forte empreinte carbone pour justement subventionner cette économie verte, ça serait quand même beaucoup plus vertueux.
La dernière fois qu'on l'a fait, c'était les politiques d'augmentation de comment des carburants avec Édouard Philippe, et puis venait lui demander si ça a donné politiquement. Ouais. C'était pas un gros succès.
Oui, mais parce qu'on n'a pas ça, proposé pas de subvention parce qu'avec, assez importante en face.
Avec ce genre d'argument, on va dans le mur.
Mais non, mais avec son d'acceptabilité politique.
Si on ne dit pas aux gens...
On le dit tout le temps aux gens, enfin, ils attendent que ça. Même les enfants à l'école, on leur partait la tradition écologique et tout. Après, il faut que ça passe.
En tout cas, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle ne pourra pas se faire sans investissement public, sans argent public. C'est ça qui frappe quand même. C'est qu'aujourd'hui, on parle d'un marché, l'offre verte, l'industrie verte, appelez ça comme vous voulez, qui ne fonctionne pas sans argent public, qui est sous perfusion en quelque sorte.
Oui, mais
on parle d'automobile, du bâtiment, de quoi que ce soit, il faut des deniers publics.
Oui, mais la perfusion, elle peut être financée par le fait qu'on dit aux gens, ben vous savez, le prix du diesel, le prix de votre fuel, ça va augmenter dans de façon épouvantable. Donc, si on vous subventionne un changement de chaudière, et cette subvention de chaudière, elle est obtenue grâce à la taxation sur le fuel et sur le diesel. Et il faut convaincre les gens que c'est pas l'État qui se met l'argent dans la poche, mais que ça va directement de la taxation du brun vers le vert. Bon, c'est pas simple à faire.
En tout cas, il y a un secteur où là aussi la situation n'est pas simple. On voit que ça investit à vitesse grand V, c'est dans l'armement. On a eu des chiffres publiés ce matin qui font autorité, ceux du CIPRI, qui nous disent que la hausse des investissements l'an dernier a battu tous les records. Plus 6,8%, on est à 2400 milliards de dollars. C'est la hausse annuelle la plus importante depuis 15 ans. Quand on voit ces chiffres, évidemment qu'ils ne réjouissent personne, on comprend bien pourquoi les entreprises aujourd'hui disent que la géopolitique est redevenue le risque numéro un pour leur activité. Erwan.
Alors oui, au-delà de la question militaire, parce que là, en fait, c'est la fragmentation de la mondialisation qui pose plein de défis aux entreprises aujourd'hui en termes géopolitiques. Sur les questions militaires, il n'y a pas besoin de faire un long exposé pour comprendre pourquoi les dépenses militaires augmentent, l'insécurité internationale augmente. On a à nos portes une puissance internationale qui a décidé d'attaquer les démocraties européennes. On a au Moyen-Orient des terroristes qui ont décidé d'attaquer la seule démocratie qui existe au Moyen-Orient. Il est normal que les dépenses en réaction d'armement se augmentent. Et Vienne défend, et pour le coup, certes, ça n'est pas une bonne nouvelle, la raison pour laquelle on doit les augmenter, mais enfin, moi, je trouve plutôt une bonne nouvelle de savoir qu'on est capable d'augmenter les investissements militaires quand les démocraties sont menacées, comme c'est le cas. Aujourd'hui, les pays de l'OTAN sont fixés comme objectif 2% de leur PIB.
Quasiment aucun pays qui ne le respectait jusqu'à présent.
Exactement, on n'y est pas encore. En 2023, si je ne me trompe pas, la France n'y était pas. Elle a dit qu'elle augmenterait sa dépense publique en matière militaire. Donc, il y a cette tendance d'augmentation des dépenses. Il y a ensuite un sujet, on va rejoindre les questions de politique industrielle, c'est où est-ce que ça augmente, comment ça augmente et dans quelle mesure l'Europe se positionne bien en la matière. Ouais. Et là, il y a beaucoup de progrès à faire en Europe.
Oui, c'est ça, parce que justement, si on regarde la tête de liste des pays qui affichent les dépenses militaires les plus élevées, on n'est pas sur le podium. Hein. C'est les États-Unis d'abord, la Chine, l'Inde, la Russie et l'Arabie Saoudite, et à eux seuls, ils représentent plus de 60% des dépenses dans ce domaine. Est-ce qu'on n'est pas complètement à la ramasse quand on voit les volumes? Parce que les États-Unis, c'est quasiment 900 millions.
100 milliards,
ouais. Évidemment. La Chine, 200-250 milliards. Et la France, 6.
Et la France, on est 9e derrière l'Ukraine.
Voilà. Oui. C'est normal. Mais c'est un gâchis prodigieux à l'échelle mondiale. Hein. On utilise 2,4% de notre PIB pour ça, c'est quand même tragique.
Du PIB mondial.
D'accord, alors quand même, on aurait d'autres emplois plus utiles. On a des pays qui ont des dépenses fabuleuses. L'Algérie, 8% de son PIB. Pourquoi ? C'est pour nourrir des militaires grassement payés qui s'emparent de la rente pétrolière. On a des pays, naturellement l'Ukraine, 36%, peut dire qu'elle a...
Elle a
pas beaucoup de choix.
Là, ouais.
Voilà, c'est quand même pas glorieux.
Hein.
On a l'exemple de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, qui tous les deux ont des dépenses militaires épouvantables.
C'est qui est inédit depuis 15 ans.
Voilà, on a la Grèce et la Turquie.
Absolument partout dans la planète.
On a la Grèce et la Turquie qui, tous les deux, ont des dépenses militaires épouvantables. C'est assez
quand même, s'il y a une.
Et on a Israël qui est obligé d'avoir des dépenses militaires épouvantables et qui refuse, et ayant
une supériorité militaire qui refuse toute solution.
Je comprends bien cette notion de gâchis dont vous parlez, Henri, mais s'il y a bien une industrie qui est en train de tirer parti de cette hausse de la demande dans ce domaine, c'est l'industrie française, parce qu'on a des exportations qui ont augmenté entre la période 2014-2018 comparée à 2019-2023 de 50%, ça fait du pays le deuxième exportateur mondial.
C'est un de nos rares points forts en matière industrielle. Bon. Faut-il s'en réjouir?
On
est content d'avoir un point fort. Ben non, parce qu'on serait quand même plus content si c'était d'autres domaines, notamment dans la transition écologique.
Ouais, et puis on a tout un secteur, on en entend beaucoup parler, qui doit repasser en économie de guerre. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ça profite à nos industriels, mais ils sont loin d'être au niveau de cadence exigé par le conflit en Ukraine. Est-ce que, là on parle des industriels, niveau marché, on voit que pour l'instant ça tient. Est-ce que vous comprenez la clémence, je ne sais pas si c'est le mot, mais la clémence des marchés jusqu'ici, depuis 2 ans, face au retour de la guerre aux quatre coins du globe? Est-ce que c'est rationnel pour vous, Henri Sterdyniak?
Les marchés s'auto-intoxiquent quand vous êtes sur un marché.
Non, mais les marchés anticipent surtout.
Oui, ils anticipent. D'abord, il n'y a pas de catastrophe en vue. Et puis ensuite, les marchés ont intérêt à avoir une bourse qui monte. Ça fait monter les bonus, hein. On a appris aujourd'hui on a appris aujourd'hui que nous avions 150 banquiers, si on peut dire, français, qui gagnent plus d'un million d'euros par an.
Chez BNP Paribas, Société Générale.
Alors, ils payent beaucoup d'impôts aussi. Hein.
Heureusement, il y en a 150. Et donc, les marchés n'ont pas intérêt à dire attention, cette montée des marchés de la bourse totalement fabuleuse, elle repose sur rien, c'est une bulle, quoi.
Nathalie, vous êtes d'accord?
De toute façon, les marchés, malheureusement, ce que je vais dire, c'est pas très sympathique, mais je veux dire, là où les conflits ont lieu, c'est pas forcément là où, et ça va pas endommager les endroits où il y a le plus de création de valeur. Bon, Israël quand même un peu, mais visiblement, ils ont l'air de s'en sortir. C'est-à-dire que malgré la mobilisation des gens par rapport au conflit.
Vous savez que la note a été dégradée, hein, quand même.
Oui, elle a quand même été, parce qu'elle est quand même en économie de guerre aussi. Enfin, donc c'est pas. Bon, ils s'en sortent pas trop mal par rapport à leur situation et à leur tension.
Mais la question, c'est l'embrasement. En Europe, au Moyen-Orient, visiblement là-dessus pour l'instant.
Exactement. Il y a effectivement visiblement.
On craint pas ce scénario.
Quand vous écoutez les. Bon, je ne suis pas une professionnelle de la géopolitique, mais effectivement, quand vous les écoutez, il y aurait. Enfin, on est plutôt dans une espèce de situation où tout le monde joue la transparence, en fait. Ouais. On déstabilise par la transparence. Donc, on dit ce qu'on va faire. Bon, parce qu'aujourd'hui, néanmoins, malgré tout, je pense qu'il y a trop à perdre si on entrait dans un conflit hyper violent.
Erwan, le mot de la fin?
Non, juste pour dire deux choses. D'abord, un, les marchés, ils préfèrent quand c'est la paix et que le commerce mondial se porte bien et de manière fluide, hein, de toute façon. Et ensuite, l'enjeu pour l'Europe, c'est de consolider son secteur. Vous savez que les Américains, pourquoi ils sont aussi forts, c'est qu'ils ont un modèle, je caricature, mais un modèle d'avion, un modèle de char, un modèle de je ne sais pas quel autre appareil. Et nous, on en a pas 27, mais on en a un grand nombre. Donc, il y a un sujet de consolidation pour que l'Europe soit capable de poursuivre son effort de défense.
C'est ce qu'on essaie de faire avec les prochains avions et blindés. Hein,
oui, exactement. Alors, si les marchés ont tout intérêt à ce que la paix règne, c'est pas forcément le cas des gouvernements, parce que regardez l'économie américaine, elle s'en sort quand même largement florissante, elle vend du.
En fait, tout le monde s'en sort bien, sauf l'économie européenne.
Et oui, les économies russes s'en sortent aussi très bien.
La Chine, D'ailleurs, quand on voit le classement, vous en parliez tout à l'heure, États-Unis et Chine sont de loin les plus grands dépensiers et sont aussi de loin les plus grandes économies. Est-ce qu'il y a un lien avéré entre puissance militaire et puissance économique?
Ils sont quand même les plus grands dépensiers parce que ce sont des grosses économies.
Non, mais est-ce qu'à l'inverse, la puissance militaire entretient la puissance économique?
Les États-Unis dépensent 3,4% de leur PIB. Nous, on dépense 2%, mais du coup, ils peuvent dépenser 15 fois de plus que nous. Donc, à la fois, ils dépensent plus que nous et ensuite, ils sont plus larges. Alors, et c'est pareil pour la Chine.
Oui.
La Chine,
mais elle dépense beaucoup, mais elle est très large. Il y a un écart entre les dépenses chinoises et les dépenses américaines. 200 milliards versus 900.
Il
y a un écart considérable entre les États-Unis et la Chine.
La Chine n'a pas les mêmes enjeux, notamment évidemment avec le conflit qui se profile vers Taïwan.
La Chine ne dépense que de 1,7% de son PIB. C'est pas un pays très dépensier matière de militaire, mais simplement c'est un grand pays.
Même s'ils essayent de remonter la pente, entre guillemets, puisque ça fait 29 ans d'affilée qu'ils relèvent leurs dépenses militaires.
Oui.
Voilà, ils sont loin de rattraper les États-Unis, mais enfin, on voit que l'effort est constant. Allez, 19h53, c'est l'heure déjà des arrêts de jeu. Il n'y a pas de pénalty, mais il y a des arrêts de jeu en tout cas. Et l'extra time de Good Evening.
L'extra time. Alors avec... c'est 30 secondes.
Ah oui, 30 secondes.
30 secondes, c'est la règle impitoyable de cette émission.
Oui.
Très bien. Eh bien. Moi, mon sujet est lié à celui qu'on vient d'évoquer, puisque c'est dans le rapport du FMI, il est fait mention de la fragmentation de la mondialisation, qui est un enjeu qui ne cesse de croître et qui devient, parce qu'on multiplie la segmentation des normes, devient un enjeu pour les entreprises. Donc, mon point d'attention, c'était la régulation, la norme va devenir, au-delà, pour des raisons géopolitiques, de plus en plus un enjeu économique demain pour le développement des entreprises. Et donc, il y a beaucoup à faire en la matière, à suivre et à regarder au-delà à l'OMC, mais au-delà aussi.
Ah bah à l'OMC il se passe plus rien, ça m'étonnerait que ce soit là-bas qu'on regarde. En tout cas c'est devenu une priorité pour la France et l'Europe effectivement, cette question des normes. Nathalie.
Eh bien moi en fait je vais c'est un petit coup un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule, on le prendra comme on veut. C'était une petite histoire drôle dans le début de réglementation des crypto-monnaies où en fait il y a des listes noires qui sont établies de certains sites et en fait il se trouve que un qui était sur les listes noires avait un stand en plein devant tout le monde à la Paris Blockchain il y a 15 jours, donc c'est très drôle de voir à quel point le régulateur ne sait pas en fait mettre en application.
À quel point le régulateur ne régule
noire,
pas.
Liste noire de qui, pardon?
Des sites qui
mais française,
qui liste française. Oui, la liste au niveau de l'AMF, oui.
Ah, oui. Donc, ah,
c'est
oui,
très
voilà.
Drôle de voir, oui, oui.
Et on donne le nom ou pas?
Non, ça ne va pas jusque-là.
Bon, j'ai pensé sur Internet. Henri Sterdignac, le mot de la fin.
Moi, c'est un coup de gueule, c'est contre l'union des marchés de capitaux.
Ah, bah oui, forcément.
Voilà, parce que le gouverneur de la Banque de France a l'air de dire, c'est le...
L'alpha et l'oméga.
C'est l'alpha et l'oméga. Il y a un certain nombre de journalistes dans Le Monde, par exemple, ou dans Les Échos, qui ont l'air effectivement d'y croire, qu'effectivement, on va développer l'économie européenne et puis la transition écologique avec cette union des marchés de capitaux, sachant qu'on a déjà la liberté de circulation des capitaux, sachant que l'objectif c'est de développer la titrisation en Europe et on a vu ce que ça donnait aux États-Unis et sachant que l'idée c'est que les marchés seraient plus efficaces que les banques, ce qui est pas du tout évident.
Non mais ça donnerait une puissance financière plus importante à l'Europe évidemment, mais bon.
Vous n'y croyez pas, en tout cas on rouvrira
c'est un autre débat, voilà, d'aide d'efficacité.
On rouvrira le débat jeudi puisque c'est jeudi que Christian Noyer, l'ancien gouverneur de la Banque de France, remettra son rapport sur l'Union des marchés de capitaux. Nathalie Janson attend ça avec impatience. Merci à tous les trois. Henri Sterdignac, Nathalie Janson, Erwan Lenoir et merci. Audrey Tcherkov.
Merci à vous, Thomas Asportas, Tom Sass, comme on vous connaît sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux. Les gens ne parlent que de ça.
Le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com et puis sur toutes les plateformes. Et bien sûr, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures.
Absolument. Notre appli BFM Business, pour ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé, dans un instant, toute l'actu de la tech en direct avec Frédéric Simotel, Tech & Co. Bonne soirée.
À demain.
Good Evening Business, actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.